Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Silence on joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Hitman 2, de Pokémon Let's Go et de Diablo 3. Et puis, le reste du programme, vous connaissez le com des com, la chronique de Jérémy Kletskin, évidemment. Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Alors, le pilier et le mur porteur que je ne présente plus.
Qui est quoi, en fait
le mur porteur est revendiqué par Corentin. Hein.
Marrant de dire mur porteur.
Ouais, ouais, c'est très
on
bien.
Dit jamais les murs porteurs de quelque chose, je trouve ça fun. Voilà.
C'est vrai que c'est étonnant comme...
Ouais. Patrick Elio et Corentin Benoît Gonin, des croissants.
Ah ça y est, on nous sort en duo maintenant. On va faire on va prendre le point virgule,
c'est le
on va faire
en
un
fait,
spectacle.
Et l'excellente bonne nouvelle, parce qu'on parle de Pokémon, donc on a la chance de accueillir, et ça me fait très très plaisir, parce que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas fait d'émission ensemble, hein. Ouh là là, mm-hmm. Ça fait des mois. Camille Gévenor de Libé, bonjour Camille.
Bonjour, j'ai pas ma métaphore architecturale moi. Je suis pas une fenêtre, une porte,
voilà,
qu'est-ce
piège,
qu'on peut
attention,
trouver
oulala. Là là.
C'est le boîtier à fusibles, puisque Let's Go Pikachu, tu vois.
Oh,
c'est pas mal, non? Ça
non.
Fait fonctionner toute la maison.
Le boîtier à fusibles.
Ouais, je sais pas.
Oui,
le réseau
Pikachu,
électrique de la maison, tu vois. Ou le réseau électrique de la maison.
Ça fait un peu la personne qui fait sauter l'émission aussi, quand même.
Ah, bah, on ne sait pas, on va voir. S'il y a trop de blagues.
Bon, en tout cas, ça fait super plaisir de te revoir dans Silence on Joue, Camille. C'est cool.
Oh, je suis content d'être là aussi.
On commence avec toi, Patrick, ouais. Avec la petite nouvelle, la toute petite nouvelle venue
fait,
de Sony.
Qui a fait énormément de bruit cette semaine et juste titre. Hein. On a appris par le site Variety que Sony ne faisait pas du tout le 3 2019. Ce sont quelques mots comme ça balancés dans un micro, mais c'est très très lourd de conséquences. Ça signifie beaucoup de choses en fait. Donc a priori, donc Sony, pas de conférence, c'était quand même le rendez-vous annuel, la conférence Sony, et puis pas de présence sur le stand. Il n'y a pas de stand Sony sur le salon de l'E3. J'imagine que c'est une très mauvaise nouvelle pour les organisateurs du salon américain, parce que Sony aujourd'hui sur cette génération c'est le leader, c'est-à-dire que il avait moi j'étais pas sur les derniers E3, mais il avait un stand de plus en plus gros depuis quelques années, enfin c'est normal à la hauteur aussi de sa place sur le marché. C'est vraiment un coup dur, je pense, pour le salon de l'E3 en général. En dehors de ça, ce qui est plus intéressant, c'est d'analyser un petit peu. C'est assez
et
intéressant.
Ça, quand même, c'est quand même la petite cerise sur le gâteau d'aller dans des conjectures absolument non sourcées sur pourquoi. Mais pourquoi?
Mais parce que c'est fascinant. Parce que mine de rien, le 3, il est intimement lié à Sony depuis le début. C'est-à-dire que le premier E3, c'est 95, c'est le lancement de la PlayStation. Le coup d'envoi de l'E3, il est intimement lié à l'arrivée de PlayStation sur le marché. Ils étaient sur le salon depuis toujours. Ce qui se dit évidemment, ce qui paraît évident, c'est que là, on est dans une phase de préparation de la prochaine génération. C'est flagrant. Le 3, il s'est passé beaucoup de choses hein, en 23 ans. Il s'est passé énormément de choses. Et quand on analyse un petit peu ce qui a pu se passer, on se dit bah, qu'effectivement, moi je serais dans un simulateur de constructeur de console. Je pense que je ferais sûrement pareil. Je me dirais attention. Là, on rentre dans une phase très stratégique quand on va commencer à parler de la prochaine génération. Quand on commence à dévoiler des specs ou des idées sur la prochaine génération de consoles, ce sont des moments qui sont très très importants. On se rappelle de l'annonce de la précédente génération, de la génération 8, rappelez-vous, PS4 et Xbox, Xbox était présenté à quelques heures l'une de l'autre.
Le gros ratage
avec
de
le
Microsoft.
Ratage évidemment de Microsoft. Et ouais. Puis surtout ce chambrage qui était très réussi de PlayStation, rappelez-vous, qui avait tourné, je crois, dans la nuit, cette petite vidéo. On voyait, je crois, le boss de Sony qui disait bah, regarde-moi mon jeu, je te le prête comme ça, qui était une réponse évidemment à toute la phase de DRM qu'avait commencé à expliquer Microsoft. Ils s'étaient empâtés là-dedans, ça marchait pas. Et Sony avait retourné le truc de façon très intelligente en réagissant comme ça très très vite pour retourner. Ce qu'on en déduit, c'est qu'une conférence comme une conférence de l'E3, c'est beaucoup de bruit où tout se passe en même temps. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'annonces. Tout peut se retourner très vite. C'est-à-dire qu'une annonce, comme on l'a vu sur Xbox One, PS4, ça donne très vite le là de ce qui va se passer sur toute la génération. Hein, ça se décide très vite.
L'exemple de la dernière, des dernières annonces, c'est alors après, ça ne s'est pas toujours passé comme ça.
Pas toujours, mais là, c'est flagrant.
Là, c'était assez flagrant.
C'est récent.
Parce
et
qu'on
du coup,
se rappelle quand même que Microsoft et Sony étaient un peu à égalité. Ah sur bah, la génération sur, d'avant, sur 360 PS3, on était vraiment sur
sur le temps. C'est PS3 qui a gagné sur le
long
le
terme,
finish.
Mais ils ont eu du mal, donc c'était tendu.
Et alors que sur cette génération, il y a même pas photo.
En tout cas, ce qui ressort, c'est que c'est très compliqué d'avoir des conférences où on annonce des choses aussi importantes qu'un plan d'attaque sur une prochaine génération de consoles. Se retrouver avec des conférences collées l'une à l'autre, moi je comprends que ça peut être très très stressant.
Est-ce que j'ai une interprétation qui est totalement personnelle et absolument non sourcée, hein, évidemment. Mais est-ce que c'est pas le fait qu'ils prévoient peut-être que Microsoft présente le matériel et que eux sont pas prêts et donc du coup autant ne pas se mettre en face.
C'est possible, mais de toute façon je pense que c'est compliqué d'être en comparaison comme ça sur des annonces. On sait qu'il y a des choses, il y a aussi beaucoup d'effets d'annonces dans
ces
moments-là.
De fait, s'ils sont pas là, c'est qu'ils ont pas de console à présenter.
Ah non, ça je pense que non. Non, je pense que à mon avis, hein, c'est vraiment
c'est bien d'avoir
estimation.
Des avis comme ça.
À mon avis, ils veulent prendre la main sur la manière dont ils vont communiquer. C'est-à-dire qu'ils vont décider eux quand ils le font. Je me rappelle que la PS4, rappelez-vous, courant 2013, les premières annonces sur la PS4, c'était je crois au PlayStation Theater à New York. C'est que c'est Sony qui avait convié la presse. Il dévoilait pas encore la console, mais il montrait la manette, il faisait des annonces sur le software, sur l'interface, etc.
C'était peu après l'E3, c'était pas pendant l'E3.
C'était pas pendant l'E3. Ils avaient pris la parole à un moment pour dire nous on annonce et je pense qu'ils veulent être, enfin c'est un peu à la mode aujourd'hui de parler de maître de l'horloge, de devenir le maître de l'horloge. Et je pense que Sony veut aussi choisir le moment où ils vont prendre la parole. Donc là effectivement ça passe en dehors de l'E3, on voit ce que fait Nintendo et Nintendo le fait très bien. Ils ont initié leur système de Nintendo Direct. Ça n'a pas la même ampleur.
Ça va au-delà là. Ils sont absents du salon. Il n'y a pas de stand
pas
Sony. Hein. Alors que, mais par contre, on peut faire le parallèle avec EA qui n'est plus sur le salon.
EA Play qui a ses événements à lui de son côté. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'on voit que ça bouge beaucoup là sur le. Enfin, c'est évident.
Non, mais tous les développeurs en parlent. Ils ont ils savent déjà qu'il y a plein de
et ça
bosse pour la PS5 actuellement.
On est à fond
sur
la PS5.
La console. Là.
On est sur la prochaine génération. Je pense qu'en 2019, il y aura des choses, c'est évident. Et je pense que cette annonce de Sony, elle est aussi dans ce contexte de préparer les annonces sur la prochaine génération. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une sortie en 2019. Ça veut dire en tout cas qu'on va commencer à en parler et à montrer des choses. Et surtout, ça montre qu'on est, en train d'entrer dans une nouvelle phase. C'est-à-dire qu'on n'est plus forcément dans ce rendez-vous E3 annuel où tout le monde, en une semaine, balance toutes ces infos qui finissent par se court-circuiter. Par s'entrechoquer avec parfois des interférences qui font que c'est parfois à la fois ça fait un porte-voix général pour l'industrie, mais ça quand on est sur des annonces aussi stratégiques qu'une et on sait que pour PlayStation c'est vraiment très important là, les annonces qui vont être faites sur la prochaine génération, elles sont capitales. Donc voilà, je pense que c'est aussi un signal que ça avance. À mon avis, l'année prochaine.
Moi je me rallie quand même à l'avis non sourcé d'Arwan. Je pense qu'ils n'ont rien à montrer. en fait, cette année, et que autant se garder et se réserver pour plus tard, quoi.
Ouais, et puis laisser le truc à Microsoft, se laisser la possibilité de répondre aussi par des vidéos, comme ils avaient fait, et tout
la
ça.
La dernière fois, ça leur a bien réussi.
Mais oui, c'est ça. Laisser Microsoft se gaufrer tout seul. Hein. De toute façon, il y a pas besoin de Sony pour que Microsoft se gaufre.
Ah, je pense qu'il y a eu des leçons de retenue chez Microsoft.
Ils sont pas trop mauvais en ce moment.
Là,
Microsoft, ils ont toute la place, du coup. Ils ont tout intérêt à s'approprier le
Sony se sont fait un petit rappel d'humilité sur Fortnite, là, hein, pour leur dire. Prenez pas trop la grossette, les mecs.
Après, il va falloir voir à quoi va ressembler l'E3 sans Sony, parce que mine de rien, encore une fois, c'était la locomotive. Il y avait beaucoup d'éditeurs qui étaient chez Sony, même qui montraient leurs jeux chez eux sur leur stand. Les indés, etc.
Oui, enfin, les éditeurs tiers, ils vont quand même montrer leurs jeux PS4. Hein,
mais tu as quand même. Enfin, c'était une locomotive du salon, c'était indiscutable.
Oui. Non, mais c'était une des locos, c'est clair.
Donc, ça va,
mais au moins, compliqué. On va plus faire de nuit blanche, Patrick, et ça, c'est bien. Parce que bon, les conférences à 4h du matin.
En même temps, il y aura peut-être d'autres. Je pense que Sony parlera d'une façon. Ils vont pas laisser passer 2019. Sans prendre la parole, à mon avis, à un moment ou un autre.
Corentin,
bonjour.
Allez, on va faire dans le sociétal dans Silence on joue.
Exactement.
Alors, c'est ça l'idée.
Alors c'est la commission qui est affiliée en fait, enfin la commission qui s'occupe des affaires de paris de jeux d'argent en Angleterre qui a sorti en fait un rapport, une étude et qui montre en fait qu'en 2 ans les cas d'enfants qui sont addicts aux jeux d'argent, aux paris, a quadruplé dans le pays. On est passé à 50 000 cas de d'enfants qui sont de 11 à 16 ans et qui sont vraiment addicts de manière forte. Ouais. Hein. Ils se rendent compte quand même qu'il y a 450 000 enfants qui jouent de manière régulière. C'est plus que ceux qui fument ou qui ont bu de l'alcool à cet âge-là ou de la drogue. C'est quand même assez impressionnant. Alors, on parle de paris entre amis hein, ou alors de machines de bandits manchots ou de jeux à gratter, ce genre de choses. Hein, pas forcément aller au casino à 11 ans. Hein.
11 à 16 ans. Hein.
11 à 16 ans, voilà, c'est ça. C'est exactement ça.
Ouais, c'est un peu tendax.
Ça inquiète énormément de professionnels du milieu.
Sans blague.
Et certains mettent en avant une certaine tendance du jeu vidéo à faire des lootbox. Non, là, je prends l'accent un petit peu mystérieux. Mais voilà, donc ils mettent en avant, en tout cas, ils en parlent. C'est évidemment pas la seule raison, parce que là, on parle quand même de l'Angleterre, de Royaume-Uni.
Le royaume des bookmakers.
Voilà, le royaume des bookmakers, ou sans foi ni loi, ou même il y a les gens qui tiennent des endroits où on peut parier ont déjà été tapés très largement sur les doigts parce qu'ils laissent des enfants parier. Ouais. Mais ils mettent aussi en avant le fait qu'il y ait, attends, j'ai le chiffre, 1 million d'enfants qui sont exposés tous les jours à des mécaniques telles que les loot box, qui sont pour eux ainsi. Qui peuvent s'apparenter à du pari. Hein. Donc les lootbox, je rappelle, c'est ces fameuses pochettes surprises où vous dépensez souvent une monnaie virtuelle, elle-même qu'on peut obtenir avec de la monnaie réelle pour obtenir des éléments de jeu, de la décoration, des personnages, ce genre de choses. Et des pays comme la Belgique ou les Pays-Bas ont déjà requalifié cette pratique-là comme étant en effet du pari et commencent à légiférer dessus, du jeu d'argent. Et donc voilà.
Vivement qu'on légifère, qu'on interdise ces saloperies.
Voilà. Hein. Donc c'est évidemment pas le seul point, mais ça fait partie en fait de toute une musique qui va avoir tendance à normaliser le pari, le jeu d'argent. Et donc je pense que le jeu vidéo a quelques questions à se poser, surtout du côté des grands éditeurs comme par exemple EA qui le fait avec FIFA. Et d'ailleurs ça a déjà.
EA 2K avec NBA 2K. Évidemment on ne présente plus les Fortnite.
Même Nintendo le fait via ses jeux mobiles.
Il y a plein de problèmes avec.
C'est clair.
Je veux dire, le micro-paiement marche bien, mais aussi marche bien en direct. Alors évidemment, ça marche mieux quand il y a du hasard. On sait très bien, le cerveau humain est fait de telle manière que dès qu'il y a du hasard, eh ben, il y a de la tentation. Mais on peut aussi imaginer, moi je ne suis absolument pas contre acheter des vêtements ou même des éléments de jeu avec des prix, avec des choses comme ça dans un jeu. Le micro-paiement, ça sert à l'économie du jeu vidéo, mais on enlève le hasard parce que c'est une belle...
On m'a fait une remarque intéressante, mais c'est quoi la différence avec les vignettes Panini finalement? Et je t'en... Bah, au moins les vignettes Panini, si tu voulais vraiment, tu peux acheter à l'unité, au choix, ce que tu veux. Alors que finalement, dans ce jeu-là, t'es un peu obligé quand même d'acheter plein de...
Qui s'est jamais rendu compte que les vignettes Panini, c'était quand même une grosse escroquerie, quoi.
J'avais les vignettes Panini Pokémon quand j'étais petit.
Bah oui, mais c'est une grosse Panini, escroquerie.
On n'avait pas les pourcentages de tirage de telle ou telle vignette.
Non, c'est vrai qu'il y avait des rares, celles qui étaient dorées, brillantes, mais c'est...
On pouvait les commander à l'unité,
On le sait, même quand on est enfant et qu'on achète ces choses-là. Alors, on a envie, parce qu'en plus, c'est l'argent des parents, donc c'est pas un peu pour ça qu'on les achète. Mais on sait que c'est une escroquerie.
C'est plutôt un investissement. Je pense qu'aujourd'hui, ça vaut une fortune, un album Panini des années 80.
Non,
complet,
pas,
non.
Ça pas de cote. On achète plutôt l'expérience de découvrir un unboxing. Quoi. C'est plutôt ça qu'on achète. Et rapidement, la palme de la pire com, encore une fois, Activision.
Hein, de la pire connerie aussi, parce
voilà,
que c'est...
Qui ont sorti Spyro Reignited Trilogy.
J'ai dit trop de gros mots dans ce début d'émission.
Oui, attention, ça va taper sur les doigts. Pense à la jeunesse. Du coup, ils ont sorti leur jeu. Le jeu marche très bien d'ailleurs, il marche mieux que Fallout, bizarrement. Hein, dans tous les sens du terme, d'ailleurs, commercialement, tout comme le jeu tout court, hein, qui marche moins bien. Fallout, il a plein de bugs. Mais en tout cas, il n'y a pas de sous-titres dans le jeu. Pourquoi ? On ne sait pas. Alors du coup, il y a des gens qui se posent la question, mais quand même, pour les sourds et malentendants, c'est un peu embêtant. Alors comment vous comptez ? C'est un oubli peut-être ? Il y a moyen de régler ça ? Et un représentatif, un porte-parole d'Activision qui a dit « Ah non, c'est un choix ». Hein, pardon, c'est un choix. Ah oui, c'est une décision qui a été prise en interne. Alors, vraie citation cette fois-ci, il n'y a pas de standard de l'industrie pour les sous-titres. Voilà, je pense que c'est le genre de choses qu'il ne faut pas
non,
dire.
Mais c'est incroyable, enfin, ça coûte que dalle. C'est clair.
Et à noter que Crash Bandicoot, aussi édité par Activision, n'avait pas de sous-titres non plus. Donc, récidiviste.
T'as combien de lignes
mais
de dialogue
Il parle Crash Bandicoot.
Crash
Je sais pas. Oui, t'as raison. Oui, alors non, lui-même ne parle pas, mais je crois que sa petite sœur parle ou sa copine parle, je sais plus quoi. Bref. Mais c'est pas cool parce qu'en
Spyro
plus
Spyro est plus bavard peut-être non
ouais,
je connais moins Spyro
c'est possible que Spyro soit plus
bavard
mais
bon c'est...
ou les autres
mais on est dans une tendance actuellement où même Microsoft fait des efforts pour rendre les jeux accessibles
à saluer d'ailleurs
Insomniac a fait son Spider-Man ultra méga accessible avec plein d'options pour les personnes qui peuvent pas par exemple faire des QTE ou ce genre de choses. C'est un vrai débat actuellement qu'on a là et qu'on pourra même reparler avec Pokémon tout à l'heure parce que c'est un des problèmes de Pokémon mais voilà. Rendre le jeu accessible pour tout le monde en ce moment,
ouais,
c'est
tendance dans l'air du temps. Et heureusement, c'est tendance.
C'est une bonne chose, mais d'où tu bosses dans la com d'Activision, toi, et que t'as pas compris ça et que tu dis ce genre d'énormité, c'est pas possible. C'est bref, clair. Foutez des sous-titres dans Spyro.
Tu fais profil bas au moins. Quoi.
Mais c'est clair, tu fais profil bas.
Et puis donc, tu dis bah, on va revenir vers les développeurs pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Enfin, c'est à un moment, il faut aussi apprendre à reconnaître ses erreurs, mais.
C'est pas Activision, ça.
Ouais, ils se croient encore un peu trop plus puissants qu'ils ne sont.
C'est vraiment, j'ai voyé sous-titres. Ils ont fait les versions PlayStation, elles n'étaient pas sous-titrées, les versions originales. Je sais pas, je les vois sous-titrées. Peut-être que je me trompe. Hein,
alors là, peut-être bien.
Je sais pas, j'ai l'impression de les voir sous-titrées.
Alors, par contre,
à vérifier, tout ça, c'est à vérifier.
Sur le plan de la localisation, ils ont localisé le jeu en plein de langues où ça n'était pas originalement. Voilà,
d'accord.
On peut signaler quand même. Ouais. Mais bon, c'est un peu naze quand même.
C'est étrange.
Histoire.
Surtout qu'ils ont les textes, du coup, ça a été.
Bah oui. On pourra reparler des Phoenix Wright aussi un jour si tu veux.
Le com des com de la semaine dernière avec une petite remarque de Yo-Yo sur le Lego DC. Je me le garde sur le coude, sous le coude, pas sûr, sous.
Peut-être surtout les Lego,
surtout les Lego. Peut-être pour Noël, ça reste quand même une valeur sûre pour les enfants de 5 à 10 ans. Je joue
même
encore,
les plus vieux, hein. même les beaucoup plus vieux.
Je sais, Patrick, je ne parlais pas de toi, je parlais des enfants
tête,
de 5
Patrick,
à 10 ans.
Non, c'est...
Okay.
Tu peux laisser les enfants jouer,
d'accord,
s'il te plaît.
Ouais, ils ont le droit de jouer aussi.
Mais tu peux leur laisser les jouets, t'es pas obligé.
Patrick, à Noël, il ouvre tous les cadeaux.
Et je trie. Et après, je distribue. Voilà.
Je joue encore régulièrement et très volontiers avec mon fils, le plus jeune, à Lego City Undercover, sur lequel on a passé plus
excellent.
De 40 heures, mais toujours pas chopé la moitié des briques dorées. C'est juste, je signale ça, parce que c'est vrai qu'on est... les parents peuvent être, surtout dans cet âge-là, entre 5 et 10 ans, c'est un peu un âge un peu compliqué pour trouver des jeux vidéo et c'est vrai que la série des Lego là-dessus tout comme Minecraft tout comme d'autres choses comme les Pokémon dont on va parler ça fonctionne
et ils sont sous-titrés
bien. Après le truc aussi c'est que sur Lego DC Villains il y a tout le lore qui est aussi assez intéressant et qui est peut-être pas hyper accessible
pour les enfants ça c'est avec les parents tu joues enfin voilà tu expliques mais c'est jamais méchant c'est aussi l'intérêt c'est que voilà t'as jamais de violence par définition avec les Lego donc même quand tu as ce jeu sur les méchants ça aurait pu être un petit peu mais non pas du tout c'est très gentil mais voilà c'est fun à jouer moi je
et quand même un petit commentaire qui n'a pas eu lieu dans les forums officiels qui était un petit peu muet quand même hein, sur l'émission de la semaine dernière peut-être que personne enfin il y avait pas beaucoup de gens qui avaient joué à l'excellent Do Not Feed the Monkeys j'espère qu'il y en aura plus du coup mais nous avons eu des nouvelles sur Twitter du compte Fictiorama. Fictiorama, c'est le studio qui a développé Do Not Feed the Monkeys. Et alors là, je vais faire un com des com en anglais. C'est « How cool is that the video games podcast of one of the main French newspaper feature Do Not Feed the Monkeys ?» C'est très cool, merci beaucoup. Bon, je fais un accent anglais alors qu'ils sont espagnols, donc ça n'a absolument rien. Mais ils ont fait en anglais, donc voilà. Donc, c'est juste, ça leur a fait plaisir qu'on parle de leur jeu. J'ai un peu peur quand c'est comme ça que ce jeu n'est pas le succès et qu'il mérite, parce qu'il le mérite vraiment.
Il me semble que Pipo m'a dit que, par exemple, Gamecube ne l'avait pas encore traité, donc il compte le faire, mais j'ai l'impression que ce jeu a une communication très en ordre dispersé, ouais, les reviews sortent au compte-gouttes.
Ouais, un peu sous-côté, enfin je sais pas. Alors que
étonnant.
Sur Steam, les avis sont ultra positifs, enfin c'est, mais je sais pas, il doit avoir un problème pour s'imposer.
En fait, tous les gens qui ont joué ont été marqués et en parlent, ouais. Mais ils ont, je pense que leur stratégie, peut-être PR, enfin relation presse, est peut-être un petit peu encore à revoir, peut-être pour les prochains jeux, mais sinon il y a rien à dire sur le jeu, il est très fort. D'ailleurs, plein de gens, enfin beaucoup de gens sont venus me voir après et m'ont dit tu m'as donné envie avec le jeu, donc ouais. Si au moins 3 ou 4 personnes en plus peuvent jouer au jeu après le podcast, c'est une bonne chose.
Ça fait plus 40% de ventes. Non, pardon.
C'est horrible.
C'est juste à signaler que un des auteurs de Fixurama, donc de Do Not Feed the Monkeys, a été interviewé par nos amis de La Pléiade. Vous pouvez retrouver ça sur leur compte Facebook. C'est une vidéo sous-titrée, donc où ils parlent, je crois, pendant un quart d'heure, 20 minutes du développement du jeu. C'est très intéressant. Voilà, on va commencer le programme de cette émission et on va commencer avec le retour de l'agent 47 dans Hitman 2. Be careful, 47. Could be a trap. Not a trap. An invitation. He's coming for us, and he won't hesitate. I'm gonna hunt you down. Yeah, I ain't playing around. I'ma take your crown. Man, better run, gonna hunt you down. Ça va pas nous rajeunir. Hitman, le premier, c'est quand même en 2000.
Oui, c'est une série c'est facile à compter, du coup.
Ouais. C'est vrai, c'est facile à compter.
Tiens, quand on sera en 2000, quand on fera Silence on joue 1347 en 2150, on dira il a 150 ans, Hitman.
Voilà. Eh, c'est pratique.
C'est pratique.
C'est pratique. Le premier s'appelait évidemment Hitman Tueur à Gage et c'est là qu'on découvrait l'agent 47. Mais le jeu marquant, celui qui pose les bases, c'est celui de 2002, Hitman 2 Silent Assassin, donc qui pose les bases de quoi ? Du principe de Hitman, c'est-à-dire on a une exécution ou plusieurs dans un lieu. Il va falloir découvrir le lieu, découvrir le timing, découvrir l'ensemble des possibilités qui nous sont offertes pour trouver quand même, au final, la façon la plus classe d'abattre sa cible, parce que c'est un peu ça, c'est il y a un côté classe.
Ou la plus lâche aussi.
La plus lâche.
ça dépend aussi des goûts et des...
Ou à la fin, on en a marre parce qu'on n'y arrive pas, donc on y va bourrin, et puis voilà, parce qu'on peut aussi y aller bourrin. Moi, pour ma part, c'est le Hitman Blood Money qui m'a énormément marqué, celui de 2006, qui était donc le quatrième.
Xbox 360, non, c'était la génération, c'est pas quand il passait justement sur génération...
Oui, c'est cette génération-là. Et donc, il y avait donc une grosse pause avant Hitman Absolution, donc qui était avant le reboot de 2016. 2016 un peu étrange parce que Hitman arrive par épisode, donc c'est le côté Square Enix donc qui tentait ses formats par épisode sur Life is Strange ou d'autres choses, mais c'est ce n'est pas
Death is Strange pour Hitman, du coup.
C'est ça. Tout autre genre quand même. Hein.
Mais qui a convaincu. Pas grand monde, parce que ça, a priori,
succès
ça a été
Steam,
un succès d'estime, succès critique. Mais là, gros retour de l'agent 47 dans Hitman 2. Corentin, parle-nous-en.
Je suis très content que tu aies fait l'historique, parce que c'est mon premier Hitman.
Ah bah oui, donc voilà, je sentais bien qu'il fallait que je fasse une.
Moi, j'étais un peu perdu quand je me suis dit, allez, Hitman, ça a l'air bien, pourquoi pas, les gens aiment bien, le format épisodique. Enfin, moi, j'en avais entendu beaucoup de bien, en tout cas. J'avais vu aussi quelques scènes cocasses sur les réseaux, ça, c'est le genre de truc qui se partage bien en général. Et donc, j'y allais un petit peu...
47 bouteilles de propane, non, tu n'avais pas fait celle-là.
Non.
Non, il y a une vidéo qui a beaucoup marché sur YouTube, je crois que c'était issu de ce Hitman 1, où en fait il y a une cible qui joue au golf, ouais. Et il faut buter la cible et éradiquer le virus, et donc le mec avait placé 47 ou 57 bouteilles de propane et le mec fait son geste de golf, ça commence par exploser lui, donc cible et machin, et après réaction en chaîne jusqu'au sous-sol où le virus est détruit, donc en un seul geste.
Je vois très bien de quoi il s'agit. Très bonne. J'y allais vierge quoi sur ce Hitman. J'avais pas d'a priori ni positif ni négatif. J'avais quand même souvenir qu'Absolution, on avait parlé aussi, avait mis en place ce système un petit peu de map un peu fermé ou avec plein d'éléments et le but c'est de les faire interagir les uns avec les autres pour atteindre son objectif, que ce soit un assassinat ou un truc à détruire comme un virus par exemple dans certains cas. Et donc j'y suis allé tranquillou et waouh, c'est cool, c'est vraiment sympa. Je m'attendais à un truc très sérieux en fait. Je m'attendais à quelque chose de froid, de très intéressant.
À l'image du personnage principal.
Exactement.
Les premiers jeux, hein. Les premiers jeux, ils étaient assez.
Il y avait toujours ce côté pince sans rire quand même dans les exécutions.
Mais moins appuyé. Ouais.
Apparemment, de ce qu'on m'en a dit, c'est que ça arrivait un peu plus tard que les tout premiers jeux, mais que ça arrivait assez vite quand même. Ouais. Avec notamment, je me souviens plus, il y avait un key art d'un des jeux où on voyait l'agent 47 avec un mec dans son bain et lui qui a juste un toaster dans la main, un grille-pain. Ah. Donc on sait ce qui va se passer, quoi. Donc oups, l'accident bête. Et donc j'y suis allé complètement vierge et donc je me suis laissé porter par finalement un jeu qui est très très drôle, mais vraiment très très drôle. Donc on est largué dans une map, donc il y a une histoire, mais honnêtement on s'en fiche. On est largué dans une map.
C'est le point si on veut être. Ouais. C'est que ils essayent quand même. Je fais une micro parenthèse, hein, mais ils essayent à certains moments de se présenter comme étant une expérience aussi narrative. Il faut découvrir le passé de l'agent 47 avec des machins, des clients secrets qui commandent des trucs à d'autres clients qui machin.
Ça, on s'en fout.
On
en fait.
Ne comprend rien. Donc, on oublie. Voilà. Et puis, on a des cibles.
On profite quand même du doublage que je trouve super. Parce que la voix de 47 et de son agent, là, sont.
De liaison. Même.
Moi, je suis en mode ASMR. Allez-y, ouais, parlez des opérations. Super, j'adore. Mais c'est vrai qu'ils ont des voix hallucinantes. Enfin, et puis, leur petit accent british, là, j'adore. Du coup, on est largué dans une map, dans une destination, donc c'est un système de destination, ce qui donne un peu cet aspect voyage qui est sympa, d'autant que tout l'aspect graphique du menu est fait comme si voilà, on choisissait sa destination de vacances, et c'est un peu ce qui se passe, donc on arrive je sais pas, en Amérique du Sud ou qu'est-ce qu'il y a, Miami et c'est vraiment des environnements différents, c'est des lieux différents, mais aussi des comment dire, c'est des événements différents, donc par exemple quand
des
on arrive
approches aussi,
des approches différentes, donc on va arriver dans un petit village perdu en pleine jungle qui est sous la domination totale d'un cartel de la drogue, on va arriver à Miami où se déroule simultanément une convention tech une course automobile parce que c'est père et fils, père et fille pardon, la fille est pilote automobile et le père c'est le Elon Musk local qui fait en plus dans l'armée et du coup en fait à chaque situation qui sont radicalement différentes, il y a 6 destinations je crois au total de nouvelles. On a du coup on va avoir des espèces de quêtes en fait avec qui vont nous amener en fait à réunir des objets, à trouver des déguisements, à faire différentes choses pour amener à une mort particulière et qui est souvent mais très drôle et très contextualisée. Ouais. Donc je vais juste prendre un exemple parce qu'il m'a fait rire et j'en donnerai pas d'autres parce qu'il y a aussi le plaisir de la découverte, mais il y a ce cartel de la drogue où on doit réunir le groupe de musicos, ils sont tous rebous de la veille, ils ont tous bu, ils sont tous en train de dormir dans tous les coins du village. Donc t'en trouves un qui a fait son overdose dans sa maison, tu récupères son costume, tu t'habilles donc en musicien, tu vas réveiller les autres. Ensuite, tu vas déboulonner la statue que doit inaugurer le chef du cartel de la drogue. Et puis ensuite, tu fais, le service musical est prêt, on peut faire la cérémonie d'inauguration de la statue. Et en fait, le mec, il est là, il arrive et il va tirer le rideau de sa propre statue, qui va donc lui tomber dessus. Et il te demande gentiment, toi, qui est dans le groupe musical, s'il vous plaît, quand même un petit roulement de tambour, mais pas de problème. Tu fais ton petit roulement de tambour et là le mec tire sur sa statue, se fait écraser, toi tu t'en vas comme un prince, j'adore. Voilà, et c'est que des situations comme ça et il y a le moment.
Et tu me donnes super envie parce que je pars d'encore pire que toi, c'est-à-dire que j'ai pas joué à celui-là, j'ai pas joué à ceux d'avant et j'en avais effectivement la même image de jeu froid austère, je sais pas, ça me donnait pas envie. Moi j'avais que les images en fait, j'ai vu les visuels et c'est tout.
Ouais,
c'est vendeur. Ouais.
Et ouais, mais il y a un côté peut-être c'est vrai que quand tu vois la jaquette de Hitman 2, c'est sérieux. Hein.
Ça fait très sérieux. Austère. Et du coup, c'est ce chaud-froid en fait, qui est vraiment très drôle. Parce qu'en fait, la situation est ridicule. En fait. Mais surtout, il n'y a que toi qui sais qu'il va se passer un truc. Et du coup, tu profites d'autant plus. Il y a ce moment magique dans Hitman et il te le donne à chaque fois pour toutes ces morts un peu scénarisées. Alors après, tu peux te la jouer aussi différemment. Tu peux aller te mettre dans un coin, sortir ton sniper et lui tirer une balle pendant que personne ne regarde. Tu peux aussi l'emmener dans un buisson et l'étrangler. Enfin voilà, il y a. et on peut faire plein de choses. Mais il y a aussi c'est vraiment ces morts scénarisées que tu peux donc qui sont très guidées. Hein, donc c'est va là-bas, va récupérer tel costume. Voilà, t'as des petits infobulles qui se mettent en place pour t'expliquer ce que tu dois faire au fur et à mesure. Sachant que pour démarrer ces quêtes-là, il faut d'abord avoir entendu la conversation qui te dit.
Les intrigues en fait. Voilà, donc c'est un système d'intrigues que moi j'ai découvert parce que j'avais pas fait le Hitman précédent par épisode. Et en fait, ça c'est une nouveauté. Alors ça avait pas le même nom sur le Hitman par épisode, mais c'est une nouveauté un peu que je trouve absolument brillante de cette Hitman 2, parce que finalement la logique Hitman, c'était on te met dans un endroit, tu sais parce que c'est Hitman qu'il y a une solution hyper classe pour y arriver, mais on va te donner peut-être quelques indices visuels, mais finalement c'est à toi de te débrouiller un peu avec ce comment on pourrait appeler ça, ce gameplay environnemental en fait, ce truc, utiliser le monde pour résoudre le problème.
C'est d'ailleurs la devise du jeu, c'est le monde est votre arme, donc on peut utiliser tout et n'importe quoi pour arriver à ses fins.
Et là on a justement ces aides scénarisées, donc on va pouvoir commencer des missions avec déjà des pistes d'intrigue qui sont là, et en plus on va pouvoir en débloquer, découvrir d'autres intrigues. Et là, on a une aide. Alors évidemment, il y a des niveaux de difficulté plus où il n'y a pas d'aide. Hein, mais du coup, on va arriver en faisant des efforts, parce que ton meilleur ami est la sauvegarde.
D'ailleurs, si tu veux désactiver les intrigues, une sauvegarde. Voilà. Voilà, t'as le droit à une sauvegarde et sinon, tu.
Et du coup, tu vas quand même pouvoir réussir à faire tes assassinats ultra classe. Et c'est vraiment une belle trouvaille de gameplay. Je trouve que ça enrichit énormément le système Hitman.
Bah, une fois que au tout début, par exemple, j'avais pas compris tout à fait comment fonctionnait ce système d'intrigue. Il m'a fallu un petit moment, surtout que la mission dont je viens de vous parler est une des toutes premières missions du jeu. Et en fait, une fois que je l'ai compris, ça allait beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'au début, c'est vrai que tourner en rond dans ces univers avec tellement de possibilités, du coup, où tu ne sais pas trop quoi faire de ces possibilités-là, ça peut être un petit peu, comment dire, on peut se sentir un petit peu oppressé par tout ça, et genre, je ne sais pas quoi faire, j'ai peur de tout. Alors qu'en vrai, le jeu est très gentil. En fait, le jeu te donne tout un système pour que l'infiltration, les actions de manière générale, soient assez simples et ne soient pas trop lourdes de conséquences si tu te plantes. Donc, déjà, évidemment, il y a les sauvegardes. Donc, si tu as envie de tenter un truc un peu difficile, tu peux sauvegarder et te dire bon, je tente et puis je rechargerai ma partie si jamais j'ai raté. Mais au-delà de ça, le système de déguisement est intéressant. Donc, ça veut dire que, en fait, on est en infiltration, mais sociale. C'est-à-dire que on peut, par exemple, choper un soldat, l'emmener dans le buisson, récupérer sa tenue et on s'habille en soldat. Ce qui fait en fait que la majorité des soldats. Et des gens vont dire, ah bah lui c'est un soldat. Bon, il est chauve, il n'a pas du tout la tête du pays, mais c'est
sauf
un soldat.
Sauf la caste.
Voilà.
La caste en question.
Sauf certains membres de la caste en question qui, eux, vont se dire, mais attends, lui, je le connais, je l'ai jamais embauché. J'ai jamais embauché ce custo, j'ai jamais embauché ce scientifique. Et du coup, en fait, ce qui fait qu'on a un jeu d'infiltration à plusieurs niveaux, où on est même amené dans certaines situations, et je pense à une ancienne mission de Hitman, du premier épisode, où c'est le fameux épisode avec la balle de golf. Où moi j'ai dû passer de costume de scientifique, costume de militaire, costume de scientifique pour parce qu'il y en avait qui me saoulaient à certains endroits et d'autres qui me saoulaient à un autre. Et du coup, j'étais en mode, mais je peux pas avoir les deux en même temps. Du coup, je jonglais entre les costumes pour arriver à mes fins. Et du coup, il y a cet aspect vraiment infiltration à plusieurs niveaux qu'il faut savoir gérer et qui est super marrant à jouer en plus. Parce que j'en ai marre, je vais faire livreur. Et du coup, d'un seul coup, il y a un autre chemin qui s'ouvre parce que tu vas avoir accès au backstage et plus tu seras plus invité. Donc tu vas pas pouvoir rentrer par la porte principale, mais par l'entrée des artistes. Enfin, il y a plein de façons de faire et qui sont sympas. Et le design, presque open world, petit open world, mais open world quand même, les cartes sont assez grandes, mais on reste quand même sur pas des trucs gigantesques, fait que tu vas toujours tomber sur une piste. Tu vas toujours tomber sur tiens, si j'allais par là. Et puis par là, tu vas tomber sur le mec qui regarde ailleurs et que tu vas pouvoir suivre ou machin. Et du coup, il y a toujours des pistes à suivre. Et du coup, tu t'ennuies jamais. C'était vraiment dans un bac à sable géant de mort et de déguisement. Voilà, c'est très cocasse comme jeu finalement. Et c'est une très très bonne surprise, ce Hitman 2 pour moi.
Patrick
un peu comme vous, mea culpa. Moi, j'avoue que. Alors, moi, Hitman, je connaissais, mais j'avais beaucoup joué aux deux à l'époque. Donc, comme tu disais, Erwan, c'était 2002, 2003. Donc j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et depuis, j'avais vraiment décroché et j'avais complètement zappé, comme beaucoup de monde, la saison 1 de la saison 1 actuelle, hein, en me disant, bon, c'est vieux, c'est un jeu vieillot avec des mécaniques d'il y a 15 ans. Et moi, je suis surpris, là, vraiment, je suis très surpris par la manière dont cette saison 2, sur laquelle je viens de me mettre, de quelle force elle est vraiment dans l'air du temps, je trouve. C'est vraiment un jeu qui est dans l'air du temps, qui est loin d'être vieillot comme on pouvait l'imaginer. Je trouve qu'au contraire, on est vraiment sur quelque chose avec du... On parle beaucoup de gameplay émergent aujourd'hui, et là, on est en plein dedans. On est en plein dedans, on est vraiment sur l'archétype du jeu qu'on s'approprie. Moi, je trouve que c'est assez fascinant. Hein. Moi, j'ai vraiment redécouvert, encore une fois, mea culpa, parce que j'avais complètement décroché de la série, j'avais pas forcément envie d'y revenir. C'est vous qui m'avez dit, on va en parler, on va tenter le coup. Non, mais c'est vrai, j'avoue vraiment, j'étais surpris en lançant le jeu, en me lançant la partie. Alors, il faut s'y remettre, c'est-à-dire qu'il faut se remettre dans cet état d'esprit du jeu. Qu'on n'est pas dans un actionneur, on n'est pas dans un TPS. Moi, j'ai quand même une tendance un peu à aller de l'avant, à être assez entreprenant avec les ennemis. Mais finalement, c'est pas l'intérêt du jeu. Mais on peut aussi jouer comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à jouer avec une tactique où je supprimais tout le monde sur la carte. C'est-à-dire que j'avais une cible à éliminer et je tuais à peu près tout le monde jusqu'à le finir lui. Mais c'était dramatique. Mais ça, c'est quand on commence. Et puis après, bah, on affine son jeu. C'est un jeu que je trouve fascinant, même dans, comment dire, il a un côté méta, je trouve. Quand il pose la place de qui on est nous en tant que joueur avec ce perso un peu invisible. Ouais. On sait pas à quoi il ressemble, hein, 47, il avait son costume, mais personne le voit, il est un peu transparent, il est pas là en fait ce perso. Ouais. Et moi j'avais un peu l'impression en jouant, je trouve qu'on a l'impression d'arriver dans des situations figées, des espèces de laps de temps, des boucles temporelles qui sont là avec des petites histoires qu'on peut aller picorer, qu'on peut découvrir, etc. Et nous on arrive là-dedans et on est quoi ? Nous on est le chaos. C'est-à-dire qu'on arrive, on va aller, bah, effectivement on a une cible à tuer, mais on peut aller enquêter, on peut aller supprimer des mecs à droite à gauche. Et en fait, j'avais vraiment l'impression de voir des boucles temporelles qui existent sans nous, qui sont là, hein, comme des séquences qui sont actives, qui se mettent en route, avec certains éléments d'ailleurs qui sont chronométrés, qui sont limités dans le temps.
Des intrigues qui périment en fait.
Exactement, qu'il ne faut pas louper. Donc on a vraiment un côté de temps réel assez stressant quand on veut bien jouer, mais ça, on le fait ou on ne le fait pas. Et on arrive là-dedans et on est le chaos. C'est-à-dire qu'on est le petit grain de sable qui vient un peu casser les belles mécaniques avec justement ces intrigues, etc. Ouais. Je trouve ça fascinant, c'est qu'on a l'impression, moi, à chaque fois, j'avais l'impression d'arriver sur un plateau de cinéma avec un film en route avec différentes petites histoires, des séquences, et moi j'arrivais là-dedans un peu pas comme un metteur en scène mais comme le chaos qui débarque dans un truc, une espèce de mécanique bien huilée que nous on vient casser en fait, qu'on vient casser avec plus ou moins de violence, mais ça je trouve que c'est assez fascinant. Et puis il y a quand même ce côté rejouabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est plus forcément dans ce côté rejouabilité sur les AAA. Aujourd'hui on est plutôt sur des séquences de mondes ouverts gigantesques où on va être dans l'exploration, l'acquisition géographique. Là, non, on est sur des, comme tu disais, Corentin, sur des petits open world finalement assez fermés, mais qu'on va revenir. Et c'est pour ça qu'il y a que 6 niveaux. Au début, on peut dire, mais c'est quoi ça, on est en 2018, il y a 6 niveaux. Mais non, mais chaque niveau, il est d'une complexité. Moi, je me dis, en game design, c'est un truc de fou, parce qu'il y a toujours des nouvelles scènes. Enfin, moi, je suis resté très longtemps sur la séquence de Miami, que je trouve fascinante. Enfin, vraiment. En plus, il y a un nombre de PNJ à l'écran.
Il fait souffrir les ordis, je préviens.
Mais je crois que j'ai jamais vu ça à ce point. Enfin, c'est colossal. On arrive, y a une foule dense et on arrive là-dedans. C'est tout bête, mais ça contribue aussi à ce côté vivant. On parlait des premiers qui étaient assez austères. Moi, je me rappelle du 2, c'était pas funky. Hein, on était. Ou alors, tu amenais peut-être le fun avec tes propres actions, mais c'était des jeux sombres et sérieux. Mais là, on est sur un côté pop, il y a un côté débridé, coloré, et qui joue à fond sur le contraste avec ce perso un peu invisible qu'on est, qui finalement est un peu... comme tu disais, il y a un chaud-froid assez rigolo. Mais c'est surprenant de la façon... Moi, quand on commence vraiment à passer du temps sur une carte, on finit par connaître un peu les différentes histoires. Bah lui, il va parler à lui. Et en fait, moi, j'avais l'impression de revivre une séquence culte du jour sans fin, où Bill Murray se balade, bon, il voit que le mec va passer, il l'évite. Et à un moment, je me suis retrouvé avec ce moment un peu, cette fulgurance où je me suis dit, mais je suis là-dedans, en fait, je connais ce qui va se passer. Et du coup, on n'est plus Hitman, on n'est plus un tueur à gages, on est une sorte d'acteur omniscient. Et c'est fascinant parce qu'on se balade dans des mises en scène qu'on finit par maîtriser. On peut jouer avec, c'est-à-dire que c'est totalement interactif. C'est à nous aussi de savoir comment on va s'immiscer là-dedans pour pour pas trop faire de casse. Mais c'est vrai que c'est fascinant, ces petites scènes qui se mettent en place. On a l'impression de voir du théâtre interactif dans lequel on va intervenir. Puis encore une fois, il y a un delta de possibilités. On peut la jouer fine comme toi, Erwan. Visiblement, tu veux avoir l'objectif. Moi, j'ai fini des fois des missions de façon honteuse, en tuant les mecs, mais comme un boucher, en fuyant. Mais c'est aussi, ça te renvoie aussi ton image de comment tu vas aborder le jeu. Est-ce que tu vas t'accrocher et revenir? Et oui, tu relances la carte, tu dis non, je peux pas en rester là, je réessaye.
Petit point sur l'aspect rejouabilité et différentes possibilités sur le jeu, c'est que d'un point de vue game design, tout a été prévu pour ça. C'est pour ça qu'il y a une carte. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a cette séquence ultra jouissive où il défile tous les succès et il s'arrête sur ce que tu as fait bien. Genre, ah bah tu l'as tué avec ta corde de piano, ah bah tu l'as tué sans changer de costume.
Tu restes grisé, tu dis voilà. Ah ouais, et là, tu vois d'autres trucs à faire.
Et tu vois que les développeurs ont pensé plein de trucs, mais des défis à la con. Par exemple, on va reprendre cette map du 1 où il y a une histoire, il y a un triangle amoureux entre le mari, sa femme et son coach de golf. Du coup, voilà. Et si tu mets le coach de golf et la femme dans le même placard, leur cadavre dans le même placard, t'as un succès pour ça. Enfin, parce que c'est triangle amoureux.
Et c'est étonnant parce que
c'est très drôle.
En général, le côté rejouabilité, c'est vraiment pour les hardcore. C'est pour les joueurs qui veulent vraiment retourner tous les succès. Là, le jeu, il est conçu pour ça. Il te fait un appel du pied pour revenir. C'est assez rare, hein, je crois,
c'est exactement le point. T'as mis exactement le point dedans. C'est que c'est un des jeux, j'ai pas d'autres exemples, c'est où l'exploration est en quatre dimensions.
Oui, oui.
C'est-à-dire qu'en fait, on doit explorer l'espace, on doit s'approprier l'espace, mais on doit aussi s'approprier le temps. Et ça, moi, j'ai eu du mal à le comprendre parce que finalement, Absolution n'était pas sur ce registre-là. Ouais. C'est-à-dire qu'Absolution avait des intrigues plus longues, les niveaux plus grands où on devait exécuter plusieurs personnes sur une même map, les unes après les autres, etc. Donc, on n'avait pas cet apprentissage par le temps. On ne recommençait pas un niveau depuis le début pour connaître, comme tu le disais, quand est-ce que quelqu'un va passer là, etc. On était moins dans ça. Et là, finalement, on se rend compte, et c'est ça qui est un peu déroutant au début, c'est qu'on n'est pas du tout dans un jeu narratif, c'est-à-dire on ne doit pas,
C'est perturbant au début.
On ne doit pas s'identifier à Hitman, à l'agent 47, parce qu'on ne doit pas faire comme si l'agent 47 arrivait, il ne connaissait rien, etc.
On doit savoir plus que lui, en fait. On doit connaître. On doit le mettre en scène.
Et l'espace et le temps. Et c'est à ce moment-là où la rejouabilité est ouf. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a fini un niveau une première fois, on va pouvoir changer de point de départ, changer d'équipement.
En sachant ce qu'on a fait la première fois, évidemment.
Et en sachant, et en débloquant les autres intrigues, etc. Et en sachant exactement les timings.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu du rogue là-dedans? Il y a un côté rogue aussi, de revenir, et complètement transformé.
Et le résultat est...
Il faut aussi parler rapidement de ces événements qui sont marqués dans le temps. Moi, il y avait Sean Bean, l'acteur qui était dans une mission, que j'ai loupé, mais... Je m'en suis voulu parce qu'on peut les faire une fois.
Voilà,
ça dure 15 jours. Moi, j'ai loupé, mais c'était lamentable. Et je m'en suis voulu. Je me suis dit, mais bon sang, pourquoi j'ai fait ça? Et je ne sais pas si on pourra la relancer dans 15 jours. Je ne sais pas comment ça va marcher.
Moi, je n'ai pas encore tenté de tuer Sean Bean, mais j'ai très hâte.
J'aurais peut-être dû attendre de bien maîtriser. J'y suis allé trop vite et du coup, je regrette.
C'est cohérent. Donc là,
j'ai une croix. Peut-être que ça va être réactivé, j'en sais rien, mais c'est génial. En plus, Sean Bean qui.
Ah bah oui. Attends, Sean Bean qui survit, c'est quoi cette histoire?
C'est vrai que.
Bon, je pense que si vous hésitiez encore.
Il faut rappeler, il y a aussi la possibilité de rejouer à toutes les cartes du premier, donc de la première saison que beaucoup de gens ont loupé.
Pour la version. Si vous
avez la saison 1, je crois qu'il suffit de rajouter 10 euros. Si vous ne l'avez pas, c'est 20 euros.
Ça multiplie le nombre de cartes. Ouais.
Ah, c'est par deux. Ça double le contenu.
C'est énorme. Et vous dire quand même, il y a eu un changement d'éditeur. C'était Square, là maintenant c'est Warner qui a été repris. Donc c'est un jeu qui a eu quand même une vie assez compliquée.
Tout à fait.
Mais qui est toujours là.
Et qui est toujours là. Bon, il y aurait plein d'autres choses à dire. Mais
c'est fascinant. C'est assez fascinant.
C'est ultra. Validé Hitman 2. C'est le moment de la chronique jeu de société de Jérémy Klitzkin. Salut Jérémy.
Salut Erwan. Qui ne connaît pas la Sagrada Familia, cette basilique somptueuse à Barcelone dont la construction a commencé il y a 150 ans. Cette œuvre emblématique de l'architecte Gaudi est en effet inachevée. Cette semaine, je vais vous parler de Sagrada, un jeu dans lequel vous allez assembler des morceaux de verre colorés afin de réaliser un vitrail pour la basilique. Chaque joueur va recevoir une grille de 4x5. Certaines cases sont vides, d'autres proposent des chiffres de 1 à 6, d'autres encore des couleurs. Il y a des cartes à objectifs communs, d'autres cartes à objectifs individuels. Dans la boîte de Sagrada, il y a plein de dés. Il y a 10 tours. À chaque tour, on va plonger sa main dans un sac, on va en sortir un certain nombre, 9 dés dans une configuration à 4 joueurs, et on va les jeter au centre de la table. Chaque joueur va pouvoir ensuite prendre l'un de ses dés et le placer dans sa grille. Et puis on fera encore un tour pour prendre un second dé. Et là, évidemment, tout se complique. Les chiffres et les couleurs sont des contraintes. On ne peut par exemple poser un dé de 2 que sur la case numéro numérotés 2 et les dés rouges sur les cases rouges. Les dés doivent toujours se toucher, mais ne peuvent être placés à côté de dés de la même couleur ou de la même valeur. À la fin des 10 tours, on va compter les points en fonction des objectifs remplis, et on perdra des points pour chaque case restée vide. Et j'entends déjà les auditeurs les plus attentifs de Silence on Joue me dire « Mais ce jeu ressemble quand même beaucoup à celui qui a été chroniqué il y a quelques semaines, à Azul !» Et moi de répondre « Bah oui, c'est vrai. Il y a vraiment beaucoup de points communs, déjà le thème, et puis quand on passe rapidement sur la mécanique des jeux, ça peut avoir l'air de se ressembler. Mais quand on rentre dans les détails, les expériences sont quand même assez différentes. Azul est sans doute un poil plus accessible, Sagrada est lui sans doute un poil plus gamer. On est dans les deux cas en présence de très bons jeux. Et Sagrada a été très bien reçu. Moi, je vous le recommande. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Les auteurs, Daryl Andrews et Adrian Adamescu. C'est édité chez Floodgate. L'illustration sur la boîte, c'est un vitrail en forme de rosace. Il ne passe pas inaperçu dans les boutiques. Et moi, je vous dis à bientôt pour parler de pions, pour parler de dés, pour parler de cartes, pour parler de choses sensuelles, pas froides comme le plastique des manettes. Bye bye.
Plastique des manettes, t'es pas toujours froid.
Il fait sa thérapie en fait. C'est ça en fait.
C'est ça. Je sais pas si Jérémy va pouvoir durer toute la saison avec ses fins de chronique, tu sais, pour.
Un peu passive-agressive là.
Non, mais c'est une interrogation. Je crois que chaque semaine on a envie de voir, mais qu'est-ce qu'il va trouver encore pour finir. C'est bien ces petits gimmicks. Allez, c'est le moment de retrouver avec toujours le même plaisir Pikachu. Et cette fois, c'est qui l'autre déjà ?
Evoli.
Evoli, merci.
Team Evoli.
Alors, est-ce qu'on rentre direct dans le débat ? Est-ce que c'est un vrai Pokémon ? Est-ce que c'est...
C'est un vrai Pokémon, puisque c'est exactement le même que le premier. Juste un truc sur la musique, là, moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait cette musique sur le jeu.
Mais ah oui.
Je sais pas, ça aurait changé un peu les choses, c'est un peu rock and roll, quand même.
C'est la musique de la pub, c'est ça ou...
Oui, c'est la musique du trailer. Hein.
C'est leur nouvelle façon de faire des pubs, un petit peu waouh, application de la Silicon Valley, là. Après, les musiques sont bien, moi, je trouve.
Oui, c'est exactement la même qu'il y a 15 ans, quoi.
C'est ça.
Donc, c'est exactement le même jeu qu'à 15 ans, c'est exactement les mêmes personnages qu'à 15 ans, les mêmes villes,
quel
les
jeu,
gens.
Pardon, moi, j'ai pas suivi, c'était lequel.
Les premiers, c'était donc Pokémon bleu, rouge, et après, il y a eu le jaune
donc
qui
là,
avait la particularité de, au lieu de choisir parmi trois Pokémon au début, c'est tu
Pikachu.
Te retrouves avec un Pikachu qui te suit et qui marche derrière toi, comme
que
dans,
tu vois à l'écran.
Comme dans le dessin animé, ouais, voilà.
Donc là, c'est celui-ci qui est repris.
Là, c'est celui-ci, et là, ça. Alors, comme les Pokémon vont toujours deux par deux, bleu, rouge, soleil, lune et compagnie, là, il y a Pikachu et Evoli, Evoli étant.
Sauf que le jaune n'avait
pas
de
Pokémon mignon.
De binôme.
Non, c'est vrai à l'époque, sur Game Boy.
Non.
C'est normal, c'était le troisième. En fait, t'avais bleu, rouge, jaune, tout comme il y a émeraude, ruby, saphir, émeraude en fait.
D'accord.
Oh.
Ah, tu te la joues pas, hein.
Non, mais c'est, je pose des questions. Moi, sur Pokémon, je pose des questions. C'est tout ce que je sais faire. Donc
là, en gros, c'est une réédition de la première génération de Pokémon avec les premiers Pokémon. Et si tu y as joué, moi, j'ai joué une fois à la bleue, une fois à la jaune. J'ai vu ma sœur jouer à la bleue, j'ai vu ma sœur jouer à la jaune. Donc, j'ai l'impression de l'avoir déjà joué 4 fois. Et là, c'est donc ma 5e fois. Et je peux réciter les dialogues à l'avance quand je rencontre les personnages. Ce qui a un côté un petit peu pénible quand on a une grosse expérience de Pokémon comme ça, parce que tu te fais un peu chier quand même. Mais c'est super joli et c'est... Non mais déjà rien que pour la découverte en mode touriste, c'est chouette de redécouvrir tout ça avec les graphiques de la Switch.
C'est le premier Pokémon en HD d'ailleurs.
C'est le premier Pokémon en HD, ouais. Et c'est super d'avoir des cinématiques avec Pikachu qui t'interpelle en disant « Viens, on va voir à l'avant, à la proue du bateau. » La proue, c'est devant, c'est ça ?
Oui,
pro
et poupou, c'est ça.
Il doit y avoir un super panoramique et t'y vas, et puis là, tu vois le paysage, et il y a Pikachu qui regarde au loin, et t'as l'impression que t'es Leonardo DiCaprio, il fait Pika Pika! Ses cris en plus sont HD aussi, quoi. C'est le même genre de cris et de discours de Pika Pika, Pikachu, qui te faisait dans le dessin animé.
Il n'y a pas les vibrations HD, les fameuses vibrations HD de la manette, non?
Non, j'ai pas l'impression, enfin, je les connais pas, mais.
Les manettes t'électrocutaient pas quand tu tenais ton Pikachu, hein.
Ça,
non. Bon, voilà, la base, c'est ça, en fait. C'est la même chose qu'avant. Et alors, donc, le principal changement par rapport aux vieux jeux, qui sont pas juste remis en HD, c'est que c'est fait pour attirer clairement les joueurs de Pokémon Go sur smartphone. Et le jeu, il est fait pour eux. C'est-à-dire, vous avez bien aimé attraper des Pokémon dans la rue, et ben maintenant, testez un vrai jeu vidéo, prenez une vraie manette et vivez une aventure avec un début, une fin et tout ça.
On rappelle donc Pokémon Go, l'événement incontournable de l'été 2017.
Ouais.
7,
ouais.
16,
16,
16, 16, ouais. 16, oui, 2016, qui avait donc captivé des dizaines de millions de joueurs, qui avait été un phénomène de société pendant le, en tout cas, bon, mois de juillet et début août 2016, ça a été complètement dingo. Et c'est vrai qu'il y avait cette idée derrière, enfin, de voir déjà, c'était la puissance, la démonstration de la puissance de cette licence Pokémon. Et ensuite, d'attirer d'autres joueurs vers Pokémon. Il fallait convertir finalement ces gens
joueurs de Candy Crush qui se sont mis à jouer à Pokémon.
Voilà. Et donc, et leur faire découvrir, oui, bah, Pokémon Go, c'est bien, mais est-ce qu'on va arriver à leur faire découvrir un vrai jeu Pokémon.
Et
Pokémon Let's Go, c'est arrivé pile poil là-dessus. Et donc, ce que ça reprend, c'est la mécanique de capture
De capture de Pokémon, ouais. C'est-à-dire que, contrairement au jeu Pokémon classique, où c'est vraiment un combat au tour par tour contre le Pokémon sauvage, tu l'affaiblis petit à petit, une fois qu'il est faible, tu lui envoies une Pokéball et tu croises les doigts pour que ça marche. Là, c'est comme tu fais avec ton téléphone, avec Pokémon Go. Tu t'occupes pas de sa santé ni rien, tu t'occupes pas de si c'est un Pokémon fort, faible, gros, petit, tu bourrines en lui lançant des Pokéballs à la tête jusqu'à ce qu'à un moment ça marche.
Tu trouves des Pokéballs dans ton inventaire.
Les Pokéballs, elles arrivent toutes seules. Tu peux en lâcher dans les boutiques, t'en trouves par terre, les gens t'en donnent à chaque fois que tu gagnes un combat. À un moment, tu regardes ton inventaire, t'en as 250, t'as pas compris comment.
Il y a même des PNJ qui sont là pour t'en refiler si t'en as plus. Enfin, c'est gratuitement. Ouais. Très bien, merci monsieur le PNJ.
Et alors, le truc marrant, c'est il y a une manette spéciale qui est.
La
Pokéball Plus qui peut être achetée pour jouer avec ce jeu. C'est une petite Pokéball en fait qu'on a dans la main et dont le bouton des Pokéballs, le petit rond au milieu là, en fait est un joystick. Il y a un deuxième bouton caché sur le dessus et t'as ça dans la main à la place de ta manette. T'avances avec et quand tu captures le Pokémon, tu diriges ta Pokéball. En fait, c'est la première fois que je vois une manette non allongée de forme sphérique mais qui a un capteur de mouvement et que tu peux pointer vers ton écran et il faut que tu vises le Pokémon, que tu fasses semblant d'envoyer la Pokéball sur le Pokémon et là elle vibre dans ta main et t'as le petit cercle autour du bouton qui est en jaune qui fait blup 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 et tu sais pas s'il va rester dedans ou s'il va sortir et si t'arrives à le capturer elle devient verte, t'as une petite vibration et là t'as vraiment l'impression d'avoir le Pokémon
et
dans
elle,
ta main.
Elle fait des sons en fonction des Pokémon aussi que t'as capturé.
Elle fait le petit cri du Pokémon une fois que tu l'as capturé. Oh. Alors au début c'est super chouette, c'est un peu émouvant quoi. Déjà c'était émouvant de se balader dans la rue et de voir des vrais Pokémon en réalité augmentée là sur le trottoir. Là il y a un petit côté larme à l'œil quand même à sentir le Pokémon pousser son petit cri à l'intérieur de ta main parce que tu l'as eu. Après c'est marrant 10 minutes et quand t'arrêtes de jouer et que tu recommences le lendemain, est-ce que tu rebranches la manette? Bon, non, ça va aller.
D'ailleurs, toi qui as pu essayer un peu toutes les manettes, t'as essayé aussi au Joy-Con ou pas?
Oui.
C'est pareil, est-ce que c'est plus facile à la Pokéball, est-ce que c'est plus facile au Joy-Con?
Au Joy-Con, c'est-à-dire...
Pardon, c'est motion control, donc voilà, on a la manette dans la main et on mime le jet. Parce que moi, j'ai pu jouer qu'au Joy-Con et en portable, avec ces deux fonctions de jouer différentes. Mais du coup, je me posais la question de la Pokéball, est-ce que c'est plus facile, plus difficile, différent?
Alors, c'est plus facile dans la mesure où moi, j'ai pas réussi à jouer au Joy-Con, j'ai pas compris les mouvements. Je suis peut-être un peu bête, mais...
C'est embêtant.
Ouais, c'est bizarre. Enfin,
en tout cas, tu as toujours une histoire de mouvement en mode portable, donc avec les deux manettes intégrées. Là, tu bouges la console un petit peu comme quand tu fais avec ton smartphone dans Pokémon Go, à gauche, à droite, et puis tu essayes de le remettre au milieu. Et là, tu appuies sur ton bouton pour lancer la Pokéball. Et d'ailleurs, il y a eu, donc ça pose des problèmes d'accessibilité, on en parlait tout à l'heure.
Exactement.
Ouais. Tu as toujours une histoire de mouvement des mains, des bras à faire pour capturer ton Pokémon.
Tu peux pas zapper, c'est
tu
ça.
Peux tu peux pas le faire pas juste
du...
au bouton.
Tu peux pas du tout zapper ça.
En fait, quand tu joues en portable, donc la manière la moins motion control d'y jouer, c'est en portable en fait. Mais le gyroscope est activé et n'est pas désactivable. Ce qui fait par exemple, et au-delà de l'accessibilité, Enfin, même jeu dans le métro, c'est chiant. Enfin,
oui, c'est ça. C'est ça. J'étais exactement en train de penser à ça. Et dans le métro, tu fais comment?
Dans le métro, sur les
la personne
3DS,
à ta droite a l'impression que tu veux lui dire quelque chose parce que tu te tournes vers elle pour attraper ton Pokémon. Quoi.
Oh non. Patrick, tu poses la question sur 3DS. Le système de combat est complètement différent sur 3DS puisque c'est un RPG. Donc tu sélectionnes ta Pokéball. Tu
n'es pas du tout dans le.
Il n'y a pas de jeu de rythme, il n'y a rien. Là, tu es vraiment sur une notion de. Alors, au Joy-Con, mimer le geste et la direction pour essayer de viser le Pokémon. Et quand tu es sur en console portable, tu appuies sur un bouton, mais tu dois quand même viser au gyroscope et mettre le Pokémon bien au centre de l'écran pour viser le centre.
J'ai une petite question, mais vraiment, parce que les Pokémon, l'aspect RPG classique est un des grands attraits. C'est-à-dire que, si je ne me trompe pas, je n'ai pas de culture Pokémon, mais un des grands attraits, c'est en fonction du Pokémon adverse, quel Pokémon je vais choisir, parce que les attaques électriques, c'est super cool contre je ne sais quel type d'attaque. Le feu, c'est...
Contre l'eau, bien, évidemment, l'électricité.
Voilà, oui, bien sûr. Et donc, c'est un des grands intérêts du lore Pokémon, c'est de se dire, on connaît un peu les faiblesses, les forces, les interactions possibles. Et si on transforme toute cette partie du jeu en lancer des Pokéballs...
Non, ça bouge pas, en fait.
Ça bouge pas. Les combats restent les combats.
Les combats, t'avais les combats contre les Pokémon sauvages qui apparaissent par hasard et les combats contre les dresseurs.
Ah oui.
Qui ont une équipe de Pokémon qu'ils ont réfléchi avec une stratégie et tout ça. Et ça bouge pas. Et tu passes quand même encore énormément de temps à combattre des dresseurs et à donc chercher les faiblesses, les types et à devoir composer avec les niveaux des Pokémon et tout ça. Et c'est juste... En fait, ils ont lissé les phases pénibles. Et finalement, c'est pas mal pensé. C'est-à-dire que te promener dans les hautes herbes avant et toujours te demander si tu vas tomber sur un Pokémon et des fois tu as des trajets à faire aller-retour pour aller chercher des objets ou des missions dans différentes villes et à chaque fois que tu traverses un champ d'herbe et tu te dis je vais encore me taper des Pokémon qui vont venir me voir et que je vais devoir faire fuite et on peut pas faire fuite et tu te tapes le combat alors que t'avais plus de force et tout ça. Là, il n'y a plus tout ça. Les Pokémon, ils ne sont plus au hasard dans les hautes herbes. Tu les vois, ils se baladent, ils sont à l'écran. Alors, c'est marrant parce que du coup, tu te rends compte de leur taille. Il y en a qui sont minuscules, il y en a qui sont énormes et qui sortent de l'écran. La tête sort de l'écran.
Les
Onyx
dans
monstrueux.
Les grottes qui prennent la moitié de l'écran, c'est toujours impressionnant.
Et ouais, tu as plus l'impression, c'est réaliste, tu as l'impression de...
D'être dans un monde de Pokémon.
Ouais, ils sont autour de toi. Et du coup, tu as aussi des petits effets, comment ils s'appellent ? Les caninos, les chiens de feu, là, ils courent, et ils courent comme des chiens, tu vois, ils sont tout fous, ils changent de direction. Et si tu veux en choper un, tu es en train de lui courir après, et il change de direction, il va vers la droite, tu changes de direction et tu lui cours après. Les Abras, c'est des Pokémon psy qui ont toujours eu cette... C'est difficile de les attraper parce qu'avant, tu lançais un... Donc, ils apparaissaient, tu te retrouves dans un combat contre eux. Et au premier tour, ils faisaient fonction attaque-téléportation. Ouais, voilà. Et puis, ils disparaissent au premier tour. Là, c'est même pas ça. C'est tu les vois à l'écran, mais le temps que tu cours après pour aller le choper, il est plus là. Et... Enfin voilà, ils sont autour de toi, ça c'est bien, ils ont réussi à enlever un côté pénible pour mettre un truc rigolo à la place. Et puis finalement, leur envoyer des Pokéballs dessus, c'est plus marrant que les affaiblir.
D'accord. Corentin, tu y as joué aussi.
Ouais, Pokémon. Je l'ai fini cette nuit là, j'ai battu, je suis maître Pokémon. C'est compliqué, je suis frustré par ce Pokémon d'une façon assez dingue, mais en même temps je l'avais vu venir, donc je peux pas dire que je suis complètement surpris, et beaucoup de fans d'ailleurs de Pokémon l'ont vu venir. On savait que c'était pas forcément un Pokémon pour les grands fans de Pokémon.
Sachant
de
que
la
le
première
Pokémon
heure.
Switch arrive en voilà. Fin 2019.
Donc, je peux pas trop en vouloir à Nintendo de vouloir taper dans ce réservoir immense de joueurs de Pokémon Go, et pour moi en fait les joueurs de Pokémon Go qui ont participé à ce phénomène, en fait pour moi sont vraiment, il y a beaucoup, en grande partie des anciens joueurs de Pokémon qui ont arrêté de jouer à Pokémon et qui là, tiens, c'est gratuit sur mon portable, j'ai pas besoin d'acheter une console et tout, on se sont dit tiens, je vais essayer de m'y remettre à Pokémon. Et du coup le but maintenant, c'est de les reconvertir vers la console, c'est un aller et un retour un peu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme dans cette situation là parce qu'on a tous grandi, que maintenant on a 30 ans, 40 ans, des boulots et tout ça. Et du coup, je peux pas vouloir à Nintendo de sortir une recette de Pokémon qui se base uniquement sur la nostalgie, qui se base sur l'univers de Pokémon qui est en effet très mignon et qui est très réussi. Alors là, moi, pardon, mais caresser mon Evoli entre les combats, mais c'est les choses les plus jouissives que j'ai faites pendant ce jeu-là. Ce Pokémon est adorable. T'es là, t'as envie de... Oh, ça fait longtemps que je l'ai pas caressé, il doit être triste. Alors tu vas et machin. Il donne des cadeaux de temps en temps. Ouais, c'est des Tamagotchi. Et puis en plus, ils sont HD maintenant, ils sont bien modélisés. Donc pour Evoli et Pikachu, ils ont leur doubleur attitré, donc les doubleurs historiques de Evoli et Pikachu. Contrairement à tous les autres Pokémon, ce que je trouve très dommage, parce que je pense que maintenant on doit avoir les capacités de donner un doublage à tous les Pokémon, ils ne le font toujours pas. C'est un choix.
Sous-titré ou pas?
Je sais pas. Des fois, ouais, c'est.
Ah non, c'est la question.
Attends, les dialogues des Pikachu sont sous-titrés. T'as Pika Pika, Pi Pi Pi, Kachu Chu.
C'est important.
Non, il est doublé par Ryan Reynolds, mais on en reparlera peut-être. Du coup, cet aspect-là est très réussi. Les Pokémon sont mignons. T'es là, oh là là. Et puis le dos duo qui se barre en courant, donc les espèces d'autruches là qui se barrent très vite. Comme tu l'as dit, les Pokémon en fait ont leur déplacement en fonction de leur nature. On les voit dans la vraie vie. Il y a un aspect, le monde de Pokémon, de manière extrêmement réaliste et qui du coup va te toucher au plus profond de ton cœur. Cet aspect-là est très réussi. Je pense que c'est la force de ce Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli. C'est, on a envie de t'emmener dans un conte de fées, le conte de fées que tu as vécu quand tu étais gamin, on a envie de te ramener en enfance. Et pour les gamins d'aujourd'hui, on a envie de t'impliquer dans ce monde, ouais. Et de te dire, oui, tu vas dresser tes animaux, là, enfin tes Pokémon, et tu vas, ça va être tes compagnons, et ce sont ils ont une âme, ils vont t'aimer, ils vont éviter des coups pour toi, ils vont se défoncer pour toi, tu vas te défoncer pour eux, et c'est une belle histoire. Tout ça, c'est super. Et puis après, voilà, c'est le parc safari tout le temps. Il y a le système de capture qui est insupportable. Désolé, il est insupportable. Je ne peux plus ce système de combat, j'en ai marre. Dans Pokémon Go, c'était bien pensé. Dans Pokémon Go, tu marches, tu te balades dehors, tu profites de la balade. Ça fait partie du game design finalement de profiter de la balade dans Pokémon Go. Et puis de temps en temps, pendant 30 secondes, tu vas tenter d'attraper ton Pokémon. Puis après, tu vas te remettre à marcher ou tu vas activer un point d'intérêt. Sauf que là, quand tu dois enchaîner, parce qu'il y a tout un système de combos où tu dois capturer le même Pokémon encore et encore et encore et encore pour avoir de l'expérience, parce qu'en fait, maintenant, le système d'expérience tourne autour de la capture et plus autour du combat. Alors, il tourne encore autour du combat.
En fait, c'est comme Hitman, tu refais les mêmes trucs différemment, ouais. Non, c'est pas ça.
Voilà, sauf que ta boucle de gameplay dure 10 secondes à peu près, mais oui, c'est l'idée. Mais du coup, ouais, on te dit, bon, alors si tu captures plusieurs fois le Pokémon, donc déjà, tu auras plus de chances d'avoir un Shiny, les Shiny sont très faciles à avoir dans ce jeu-là, mais en plus, tu vas avoir des bonus donc en fonction de la capture. Alors si tu le captures avec du premier coup, tu jettes ta première Pokéball, ça passe. Si tu le chopes,
si t'as bien visé au milieu,
si c'est un nouveau Pokémon, s'il a une taille particulière, c'est-à-dire s'il est très grand ou très petit, si t'as fait un effet, donc en fait si tu joues avec la Pokéball ou si tu joues avec le Joy-Con, t'auras un lancer technique parce que tu n'es pas un faible qui joue avec des vrais boutons, je veux dire, tu utilises les gyroscopes comme les vrais durs que Nintendo veut essayer de te faire devenir. Mais bref, et si tu as un combo, bah tout ça en fait, ça fait des multiplicateurs sur l'expérience du Pokémon que tu vas capturer. Et tous tes Pokémon vont bénéficier, ce qui est ultra puissant, parce que du coup, toute ton équipe évolue en même temps, comme si tu avais battu un Pokémon, en fait. Donc en fait, ça va très vite d'XP, enfin ça va beaucoup plus vite qu'avec les combats, de faire de l'XP pour ton équipe. Moi, j'ai fait gagner comme ça 5 niveaux à toute mon équipe en une heure assez rapidement, alors que normalement, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps avec tes combats, il aurait fallu que je mette des Pokémon en avant, que je les retire, que je les remette comme on faisait dans les anciens Pokémon. Sauf que voilà, cette heure-là, je l'ai passée à me battre contre le même Pokémon. Tout le temps. Et en plus, ce système de combo est ultra injuste parce que ton Pokémon peut fuir en face. Et ça, c'est complètement aléatoire. Moi, je me suis dit, bon, je lance 3 Pokéballs et après, c'est moi qui fuis, sinon ça va ruiner mon combo. Sauf qu'il y en a un qui, j'ai lancé une Pokéball et il s'est barré. C'était complètement aléatoire, complètement injuste. Je me suis senti frustré. Et tout ça, c'est de la frustration que je rajoute sur, tiens, j'ai mis un coup de Joy-Con vers la gauche, là. Pokéball est parti à l'autre bout, à droite. Des fois, tu ne comprends pas comment fonctionne ce gyroscope. De toute façon, c'est le machine control.
Mais entraîner ces Pokémon dans les herbes hautes, ça a toujours été frustrant, c'est juste qu'on a changé de frustration.
Je suis d'accord. Dire,
c'était déjà... De toute façon, dans un carré d'herbe, t'avais déjà le même Pokémon ou 2 Pokémon maximum, donc t'étais toujours contre le même. T'étais toujours à faire les mêmes attaques, t'étais toujours à essayer de chercher à lui laisser seulement 2 petits points à la fin pour l'avoir quand la barre était dans le rouge. Et puis après, tu faisais une attaque qui était un petit peu trop forte, il se retrouve KO, t'as recommencé au début.
Je suis assez d'accord.
C'est différents types de frustration, c'est la même chose à la fin, t'en as marre et t'y passes aussi une heure et à la fin, t'en peux plus.
C'est assez vrai, je suis assez d'accord avec toi, mais là j'ai l'impression qu'il pousse ça. Il pousse cette frustration encore plus loin dans des tâches encore plus répétitives qu'avant en fait. Parce qu'avant dans Pokémon,
débat d'experts Pokémon.
Non mais sur la capture,
je savoure. Allez.
Sur la capture, en fait, j'avais l'impression d'avoir une emprise quand même dessus. Par exemple, si un Pokémon était difficile à capturer, je me dis bon, bah c'est pas grave, je vais apprendre Fauchage à mon Pokémon et puis comme ça, il va rester à 1 PV parce que Fauchage est une attaque qui ne laisse qu'un PV. J'avais le sentiment, puis je vais l'endormir et puis on va trouver. Alors que là, on n'a pas trop le choix, quoi. On a 3 Pokéballs différentes, quelques baies à donner au Pokémon et puis après, le gyroscope s'il veut bien.
T'avais pas envie de l'aimer, Corentin.
Non.
En vrai, t'avais pas envie.
Moi, je suis parti du principe.
En vrai, t'avais pas envie.
Arrête de dire ça.
Ça fait tomber un stress parce qu'il y a des.
Oui, ça, je suis d'accord.
Il y avait des Pokémon difficiles que t'avais peur d'affronter, soit parce que la fuite est impossible, ouais. Et que quand tu tombes dessus par hasard, toi, tu peux pas fuir et t'es obligé de te prendre leurs attaques. Et des fois, tu sais que tu peux pas y riposter, ouais, ils sont trop forts.
Là, on peut fuir tout le temps.
Il y en a qui ont des attaques qui te font flipper parce que t'as pas trop de quoi répondre ou ils te font baisser ta vie vachement rapidement. Là, tu sais qu'ils peuvent pas t'attaquer. Ils font plus peur.
Moi, au-delà de ça, je trouve qu'on a moins peur de s'aventurer dans des lieux.
Exactement.
Bah, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que si tes Pokémon sont tous quasi morts, C'est pas grave parce qu'au fond tu peux éviter les dresseurs et si les Pokémon t'attaquent, bah de toute façon ils vont pas attaquer, ils vont t'attaquer toi et pas ton équipe. Donc ça par contre, il y a un petit côté déstressant et qui est bienvenu. Mais après je suis d'accord avec toi, il y a plein de choses qui ont été lissées et qui sont super chouettes. Le fait que les Pokémon apparaissent à l'écran, on se balade dans les grottes, on a plus la boule au ventre parce qu'on va se taper le énième Nosferapti, je suis d'accord. Et il y a et la boîte sur soi, alors d'habitude les Pokémon hein, on en a 6 sur soi et le reste dans le PC qu'il faut aller dans le centre Pokémon récupérer, faire le, c'est son compte en banque de Pokémon. Ah, qu'est-ce que c'est pratique c'est d'avoir sa boîte sur soi.
Ouais, c'est cool.
Oh là là, faut laisser ça. Hein.
Alors, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est le deuxième joueur. Il y a un moment dans le jeu, on dit secoue la deuxième manette et il y a un deuxième joueur qui apparaît, qui n'a pas de nom et tout. C'est pas un vrai personnage du jeu, mais juste il apparaît à côté de toi et il peut t'aider pour les combats. Et là, c'est une sorte de cheat monstrueux où tu peux faire des combats de Pokémon à deux contre un.
tu boulies les gamins dans les rues.
Voilà, t'as absolument pas besoin d'avoir un deuxième vrai joueur à côté de toi. Tu prends juste deux manettes, une dans la gauche, une dans la droite, et t'as deux Pokémon. Quoi.
Non, c'est vrai. C'est bon, après, c'est... moi je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient fait ça, parce qu'en plus c'est un Pokémon qui est de salon et c'est pas si courant que ça. Et du coup, j'imagine que pour les parents qui veulent jouer avec leur gamin, hein,
Erwan, c'est exactement ça que je pensais. Moi, j'ai des collègues qui sont mis à Pokémon Go pour comprendre le délire Pokémon de leurs enfants. Et ils s'échangeaient ça sur le smartphone tous les deux. Et là, ouais, ils vont prendre la deuxième manette et faire un petit peu de Pokémon sur une vraie console.
Pour vous, c'est plus un épisode salon ou portable ? Alors, je sais que c'est hybride par définition, mais salon. Plutôt salon ?
Ouais. Ok. Enfin, en tout cas, je l'ai joué comme tel. Mais après, j'imagine que chacun a son expérience.
En tout cas, d'après ce que vous dites, c'est une réussite absolue si on prend comme critère on doit faire un Pokémon pour les joueurs de Pokémon Go.
Oui, enfin, c'est en
fonction de l'ambition initiale, si on juge un jeu en fonction de son ambition initiale, pour le coup, il n'y a pas...
Je ne sais pas si un joueur pur de Pokémon Go va accrocher au combat, au tour par tour, au RPG et tout ça.
En fait, ce qui m'embête avec ce Pokémon Let's Go, c'est que j'ai toujours trouvé Pokémon assez bon pour emmener les nouveaux joueurs, notamment les derniers Pokémon Soleil, Lune, X et Y. Je trouve qu'ils faisaient un énorme travail pour satisfaire à la fois les joueurs de Pokémon acharnés qui regardent les stats de leur Pokémon, donc de inné, acquis, ce genre de choses. C'est très compliqué Pokémon, c'est des mathématiques, tu te rends même pas compte, Erwan Cario. Tu te rends pas compte de ce qui se passe dans Pokémon, en backstage, il y a des gens qui se cassent la tête sur Pokémon.
Alors là, j'accepte.
En fait, on peut chacun trouver un peu une midi à sa porte dans les Pokémon classiques. Du coup, je trouve que c'est un peu un aveu d'échec de ce Pokémon Let's Go Pikachu, de se dire on va sabrer toute une partie du contenu. Il y a notamment les Pokémon ne peuvent plus porter d'objets, ils n'ont plus de talent. Il y a toute une partie du jeu qui a été sabrée
sur l'autel
de la simplicité.
Mais ça n'a jamais été le but de ce jeu-là. Ça sera pour le jeu de 2019.
Et moi, je trouve que c'est un but de merde, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je pense qu'on peut tout à fait faire l'un et l'autre. Et je trouve que ce Pokémon-là manque d'ambition, en fait, tout simplement. Et n'a pas confiance dans les joueurs débutants. Je suis sûr qu'ils peuvent aussi prendre plaisir. Et d'ailleurs, on pourrait tout à fait imaginer un système de capture hybride où ta Pokéball, tu la jettes pareil après avoir affaibli ton Pokémon.
Moi, je crois que Pokémon Let's Go n'est pas un jeu pour toi, mais c'est un jeu qui démocratise Pokémon.
Entièrement d'accord avec toi. Mais
et
moi,
c'est très noble.
Et j'ai hâte de voir ce que va donner le prochain Pokémon, d'ailleurs.
Sur ce point d'accord. C'était un vrai plaisir. Merci à tous les deux. Cette science Pokémon, ça me fait quelque chose. On va parler rapidement parce que j'ai fait le son et parce que le son est là, prêt à être lancé. Donc on va en parler. Mais alors vite. Hein. C'est Diablo 3 version Switch. Angels can still feel fear. Alors, il s'appelle comment
Diablo 3 Eternal Collection.
Eternal Collection, version qui était déjà sortie en juin 2017 sur... Eternal Collection, c'est grosso modo Rise of the Necromancer et Reaper of Souls, tout compilé. C'est la totale, Diablo 3 la totale. Et là, c'est quoi l'intérêt? C'est que ça arrive dans tes mains, tu peux l'emmener avec toi, Diablo 3.
Le fameux button switch. Button switch. N'importe quel jeu, But on Switch.
But on Switch.
C'est
quoi la nouveauté dans ton jeu? Bah, il est sur Switch. Ok, cool, merci. Bah, c'est vrai, alors, c'est important.
Vous avez vu les Pokémon? Bah, Diablo 3, c'est des Pokémon partout à l'écran, par qu'on les tabasse jusqu'à péter son bouton. C'est du hack and slash pur et dur. Non, on va pas représenter Diablo 3. C'est un jeu cultissime. C'est le représentant du hack and slash qui est sorti 2012.
Alors c'est marrant. Moi, j'ai mes notes, hein, parce que.
Moi, j'avais joué à l'époque, j'avais décroché, un peu comme Hitman, voilà. J'avoue, j'avais pas suivi. Puis là, je me suis remis. La Switch, comme tu disais, c'est un bon point d'entrée pour se relancer dans des jeux aussi, un peu comme Skyrim aussi, voilà, c'est des jeux qu'on redécouvre.
Moi, ça va
parfois,
beaucoup rappeler ce que ça m'avait fait à l'époque de Skyrim.
On a parlé tout à l'heure,
ce jeu ressorti sur plein de versions, etc.
C'est un fantasme.
Et le but on Switch.
Mais c'est un fantasme.
C'est quelque chose qui fait son effet.
Ça change tout, c'est de se dire je peux jouer à Diablo en portable. Et c'est vrai qu'on aurait dit ça il y a 4-5 ans, on aurait dit mais c'est pas possible. C'est marrant parce qu'en y rejoignant, j'ai beaucoup repensé à nouveau au bouquin de Schreier qui parle justement de Diablo 3. J'y ai beaucoup pensé parce que le chapitre est fascinant sur le passage, le lancement. Décidément, il m'a marqué, moi, ce bouquin.
À chaque fois que je relance un jeu dont
a traité Schreier, je suis obligé de repenser aux pages concernées. Et il parle justement de Diablo 3.
Donc, c'est du sang et des pixels.
Exactement.
Du sang, des larmes et des pixels.
Où il parle justement du lancement catastrophique de Diablo 3 avec les problèmes de serveur, les problèmes de dosage, les problèmes de la boutique en ligne qui vendait des biens, etc. Et il expliquait que Reaper of Souls avait justement remis tout ça à plat, que ça avait été une extension très importante. Et il parle aussi dans ces pages de l'adaptation console et des choix qui avaient été faits et qu'on retrouve là sur Switch avec les deux sticks, avec le stick analogique de droite qui permet d'avoir des mouvements brusques. Ça peut paraître choquant pour les fans de PC, mais ça marche très très bien.
Non mais attends, c'est pire que ça. C'est que c'est le monsieur console de Diablo 3
qui a sauvé
la version PC.
Exactement.
Et alors ça, c'est...
C'est vrai que c'est fascinant, c'est pour ça il faut lire ce bouquin de toute façon. Voilà. Et après, c'est vrai qu'on rejoue au jeu différemment. Et c'est vrai que Diablo 3, on s'y replonge des années après, et ça marche très bien. Alors c'est une très belle adaptation, c'est vrai qu'on a un jeu quand même qui date un petit peu aujourd'hui, mais tous les jeux ne sont pas forcément bien adaptés sur Switch. On a parfois des lags et tout. Là, c'est pas le cas du tout. On a une animation qui ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on a parfois quand même, quand on connaît un petit peu Diablo 3,
il y a du monde à l'écran.
Au bout de quelques heures de jeu, on parle vraiment des écrans remplis de monstres. Ouais. Moi, j'ai pas vu de lag. C'est vraiment très très propre. On sent que les gars ont vraiment bossé là-dessus et c'est important, heureusement.
C'est un jeu de 2012.
C'est un jeu, effectivement.
Je sais que la Switch n'est pas puissante, mais.
Et ce qui est intéressant à voir, moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que c'est vrai, quand on joue en docké sur l'écran, sur son grand écran, ça bave un peu. On sent que, on n'est pas au niveau des versions PS4 ou PC. Par contre, quand on y joue en portable, c'est là, encore une fois,
le jeu est magnifique.
Il est vraiment magnifique. C'est vrai qu'on connaît l'écran de la Switch et c'est vrai que le jeu est vraiment très, très propre. Il y a un côté magique. À chaque fois, moi, je replonge parce que on se lance quand même dans un jeu, en plus, là, qui a un contenu quand même monstrueux, parce qu'on a la version ultime de Diablo 3 avec toutes les extensions, le nécromancien qui avait été ajouté. On a vraiment la version complète avec toutes les extensions. On a tout le système de saison, on a un contenu gargantuesque. Enfin, on peut y passer la vie, hein, si on veut jouer à Diablo 3. On revient dans les niveaux visités, on va refaire du loot, etc. C'est un jeu qui a une richesse folle quand on accroche au genre. Et c'est vrai que j'ai envie de dire, c'est parce qu'une valeur sûre. Il est bien fait, il est propre, le portage est vraiment nickel. Quand on aime le hack and slash tendance Diablo, c'est un peu un incontournable. Il est vendu au prix fort, donc ça peut faire tiquer. C'est vrai que c'est un jeu qui a quelques années. Mais bon, en même temps, t'as une version nickel, chrome, ultra complète de Diablo 3. Moi, je trouve que ça les mérite quelque part. T'as un jeu qui est ultra... tu vas y passer des heures. Genre, si tu aimes le genre... C'est une valeur sûre, quoi. Clairement.
Ouais. Le prix, malheureusement, ça va avec le button switch, c'est que souvent, on revend le jeu plein pot.
Ouais, ouais.
Et puis, t'as aussi le truc t'as la compatibilité amiibo, très importante. Tu as un amiibo exclusif qui a été annoncé, qui arrive le tout début décembre.
Genre, tu peux avoir un costume Mario?
Non, ça va débloquer les trucs.
Ganondorf est jouable. Ganondorf est jouable.
T'as des skins, je crois. T'as des skins Ganondorf.
D'accord.
Et l'amiibo ne sert à rien, mais il est d'autant plus indispensable, évidemment, pour les collectionneurs.
On écrira ça sur
Loot Goblin.
Je trouve que c'est un jeu qui va. Alors, contrairement à Pokémon, c'est un jeu qui va très bien avec le métro. L'avoir testé sur pas mal de voyages ces derniers jours, c'est vrai que tu te lances dans Diablo et tu fais. Bum, bum, bum.
Tu bouges pas trop, finalement.
Mais il y a un côté brainless qui est presque gênant. en 2018.
Non, pourquoi jeune homme? Bah non,
c'est catharsis. Sais pas. Alors après, c'est peut-être parce que j'ai vieilli. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je trouve que ce voyage où tu laboures du mob et que tu... de temps en temps, t'as un loot qui tombe et puis tu regardes est-ce qu'il est mieux, moins bien que l'arme, le bouclier, le casque, les bottes, le machin que j'ai déjà. Oui, il est moins bien, je change. Non, il n'est pas moins bien. Bon, bah, je vais le soit le vendre, soit en récupérer des matières premières pour... je trouve que ça... Alors après, peut-être qu'ils sont hyper sûrs de leur modèle et que Diablo 4, ce sera exactement la même chose quand ce sera annoncé, sorti, etc. Je trouve que ça vieillit. Ça vieillit beaucoup. Pourquoi ça vieillit ? Parce que tout le monde le fait, tout le monde l'a fait. Le grinding va... Grosso modo, j'ai l'impression d'avoir... c'est Assassin's Creed, c'est la même chose tout le temps, partout, maintenant. Ce modèle XP, loot, machin, on en avait beaucoup déjà parlé depuis... Mais même sans critiquer cet aspect-là, je trouve que le fait que ça se retrouve dans tous les jeux maintenant... Et ben finalement, l'origine du truc, parce que Diablo est pratiquement le patient zéro de ce mode-là, et ben je trouve que le patient zéro, il fait
des baffes. Ça fait, pour moi, c'est l'ADN du jeu. Il est là,
bah oui,
c'est
mais,
ça, Diablo.
Mais,
t'as quand même tu vois, cette palpitation
des fois, tu sais, c'est de l'évolution. Hein, tu sais, c'est Darwin.
Ouais, j'ai envie de dire,
l'ADN, il évolue aussi.
Tu
donc
achètes Diablo 3, tu sais à quoi t'attendre. Et le jeu, comme tu dis, il a lancé ce système-là et tu sais, il n'est pas transformé,
mais
c'est Diablo 3.
L'ADN de Néandertal, il galérerait aujourd'hui, quoi.
Moi, je trouve que tu as toujours ce frisson quand tu arrives dans des cryptes, dans des trucs. T'as quand même, moi, je trouve que... Et tu as une courbe aussi. Tu as quand même une vraie courbe de progression dans le jeu, etc. Enfin, je trouve que non, il est... C'est un monument, quoi.
Alors, je parle vraiment en tant que quelqu'un qui a à peine touché à Diablo 3 au moment de sa sortie, ouais, et qui devrait y rejouer avec justement tout ce qui a été modifié entre temps. Mais moi, le passage entre Diablo 2 et Diablo 3 m'a coupé de Diablo. J'en pouvais plus. Parce que Diablo 2, il y avait justement une forme de, pas de réflexion, mais il y avait un peu plus des archétypes de jeu qu'il fallait mettre en place. Il y a cette situation, donc je veux faire ceci. Il y avait tout le système d'objets qui était, enfin, après, je ne vais pas rentrer en détail dans celui de Diablo 3. Mais j'ai ce sentiment-là que cet aspect un peu plus simplifié, brainless, je crois que c'est à l'origine même de Diablo 3. Je suis un peu d'accord avec toi, Erwan. C'est pas amusant.
Après, c'est juste... je pense qu'il y a, il y a un effet de ciseau entre, d'un côté, tous les jeux qui font qui reprennent ce système-là, et depuis 2012, quand même, eh ben, les Soul-like, hein, les Dark Souls,
c'est pas du tout la même expérience.
Non, mais c'est pas du tout la même expérience. N'empêche qu'on
est sur...
On est sur de l'heroic fantasy où il y a des boss à battre avec des mobs au milieu.
C'est pas du tout la même expérience. T'as pas le même ressenti, t'as pas le même plaisir de jeu.
Pas le même rythme.
Je dis pas que c'est ça. Je dis que ça.
Ils sont même
vieillir.
Complémentaires. Moi, je joue aux deux en ce moment, en même temps.
Je dis juste que ça fait vieillir la recette initiale, un peu. Voilà, des deux côtés, je trouve qu'il y a un effet ciseau.
On est d'accord.
Pour attirer les joueurs de Diablo mobile sur console, Erwan, tu sais bien. Ils sont très nombreux.
Bref. C'est fini pour les jeux vidéo. On a fait le tour.
Ah oui,
on a fait le tour. Je suis content. Elle était bien, cette émission. J'étais ravi, vraiment.
Elle était intéressante.
Cool. Il faudra que tu reviennes plus souvent. Hein. Tu joueras à Hitman.
En 2019.
Hein, bah, oui, déjà en 2019.
Ah, tu veux dire qu'il faut que je joue à d'autres jeux vidéo ?
C'est ça.
Oh, non, trop dur.
Trop long, ça prend de 7 ans, les jeux vidéo,
ouais,
sérieux.
C'est clair.
Mais on va se caler ça quand même. Allez, c'est les bonnes résolutions de 2019.
Ouais, hein, ça marche.
C'est ça. Voilà, c'est fini pour les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin ?
En ce moment c'est très Netflix, je sais qu'on va me faire la remarque.
Mais non,
là.
On a arrêté.
Je regarde les nouvelles aventures de Sabrina. Qui sont sur Netflix. Tu connais Sabrina la Première Sorcière. Donc en fait, nous on le connaît surtout parce que c'était la sitcom qui était diffusée le matin sur France 2 il y a quelques années. Sauf qu'à la base, c'est des comics, c'est Archie Comics en fait, dans le même univers que Archie du coup, Riverdale. Il y a aussi une série Riverdale là qui a été mise sur Netflix. Et donc ça reprend ce personnage de Sabrina, mais de manière beaucoup plus sombre et beaucoup plus proche de finalement ce qu'étaient les comics. Et c'est plutôt cool pour l'instant. Alors j'en suis au 2-3e épisode, je peux encore ultra avancer, mais du coup on a quelque chose de très sombre, très pesant, mais quand même avec un fond d'humour, un fond de lumière dans cet aspect un petit peu ténébreux et glauque. Dans le rôle de Sabrina, on a Kiernan Shipka, qu'on a déjà vu dans Mad Men. Alors moi je connaissais pas du tout, mais je trouve qu'elle tient très bien le rôle. En plus elle a vraiment la tête de l'emploi, donc c'est vraiment super. J'aime bien un petit peu l'ambiance qui est mise, et bon, du coup c'est une série Netflix en 2018, donc évidemment on met aussi sur la table des sujets un peu plus d'actualité comme le féminisme, la discrimination, voilà, qui on essaie un petit peu d'actualiser Sabrina, et je trouve que pour l'instant le job est bien fait, donc je vais continuer. Il y a 10 épisodes, donc je vais mater ça, et si vous avez vu Riverdale, que ça vous a plu, parce qu'apparemment c'est le même showrunner, n'hésitez pas à y jeter un œil, et ne gardez pas en tête cette idée de sitcom un peu rigolote. Là on est dans quelque chose d'un peu plus lourd, pas forcément aussi vain quoi.
Patrick.
Oui, alors moi je suis allé voir Bohemian Rhapsody, qui est sorti il y a quelques temps maintenant, donc biopic sur Freddie Mercury. J'ai plutôt bien aimé. Alors moi, j'aime bien Queen. Hein. Enfin, donc voilà, on se régale au cinéma. Il vaut mieux. Sinon, ça peut être douloureux. Non, je suis un peu de l'avis général. C'est vrai que ce qui se dit beaucoup, et ça crève à l'écran, c'est que les survivants du groupe ont eu la main sur le projet. On a quelque chose d'assez aseptisé, clairement. Ouais. On sent qu'on effleure un petit peu la personnalité de Mercury, mais je pense que c'était quelqu'un de très complexe et que c'était pas forcément facile de le mettre en scène. Ça reste... Voilà, ça, c'est un film facile, mais quand on aime la musique de Queen, c'est vraiment sympa. Rami Malek, qu'on avait vu dans Until Dawn, vous vous rappelez, c'était le frère un peu chelou, hein, dans Until Dawn. Il est vraiment, il capte l'écran, je trouve qu'il réussit.
C'est un robot aussi.
Bien sûr, mais bon, Until Dawn.
Il fait vraiment
le boulot, il est vraiment impressionnant. Et puis, pour moi, il y a une séquence culte, hein, je vais pas spoiler, mais vers la fin du film, c'est, en fait, t'as quasiment la reprise de tout le passage du Live Aid 85, qui vraiment repris quasiment plan par plan sur YouTube. D'ailleurs, il y a des types qui s'amusent à voir la différence. Enfin, il y a très peu de différence. Un travail de malade d'avoir repris la séquence culte du Live Aid 85. J'ai envie de dire, rien que pour cette séquence-là, dans une bonne salle, avec le son, ça vaut le détour. Voilà.
D'accord. Camille ?
Moi, j'ai pas réfléchi avant de venir, et je crois que j'ai pas grand chose à raconter, parce qu'en fait, je regarde des séries que j'ai déjà vues, je regarde des films que j'ai déjà vus, et sinon, je passe mon temps au gymnase à péter des flèches au tir à l'arc.
Mais voilà! Mais voilà!
Et ouais, mais c'est pas très culturel, et
c'est pas culturel, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu joues pas.
D'accord, mais c'est. Je pète des flèches.
Tu pètes des flèches. Donc en fait, comment est-ce qu'on pète des flèches au tir à l'arc ?
Eh ben,
tire sur la même flèche,
au lieu de tirer sur la paille.
Tu tires sur la même flèche, genre Robin des Bois et tout ça, comme ça tu pètes des flèches.
Ouais,
genre...
ouais, comme ça t'exploses ta flèche. Ouais. Ça s'appelle faire un Robin. Mais sinon, tu tires à côté, tu te prends une vis et là la pointe elle rentre à l'intérieur du tube carbone et elle explose. Ça fait un soleil, ou on appelle ça un chou-fleur.
D'accord, donc tu rates la cible.
Sauf qu'une flèche, ça coûte entre 15 et 20 euros facile. Et quand ça t'arrive, ça fait chier, quoi.
Mais parce que tu rates la cible, en fait, c'est ça ?
Oui.
Ah oui, c'est ça. Sans vouloir remuer
la flèche dans la plaie.
dans la vis.
J'avais un petit peu trop rentré l'aiguille de mon repose-flèche. C'est une petite aiguille comme un trombone déplié où ta flèche repose dessus. Et si c'est trop rentré, la flèche, elle se casse la gueule au moment où elle part. Et
là là. Rip la flèche.
Ouais, rip
donc
la flèche.
Tu regardes des films avec Errol Flynn, tout ça, pour te remettre dans l'ambiance, machin. Ouais.
Mais en arrivant là, j'ai vu qu'il y a un Robin des Bois qui va sortir. L'affiche est immonde, ça donne pas du tout envie.
Mais t'iras le voir.
Moi et toi, Erwan, quand tu joues pas, tu fais quoi ?
Alors, moi, quand je voulais parler, ça fait longtemps, parce que avec toutes ces histoires de podcasts et tout ça, on en oublie qu'il y a des choses à la radio et que la radio fait aussi des podcasts. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas parlé de cette émission hebdomadaire dont je ne rate aucun épisode, mais depuis très longtemps. C'est la conversation scientifique d'Étienne Klein sur France Culture, qui est quand même l'émission scientifique, et pas que scientifique, le dernier épisode donc, qui date du week-end dernier. Donc, c'est La nature est-elle belle, hein, conversation purement philosophique, absolument passionnante. Et d'une part, Étienne Klein est peut-être c'est un très bon vulgarisateur, hein, lui-même, hein, sur plein de sujets. Et donc, du coup, il a cette aisance comme ça à discuter de sujets avec les personnes qu'il invite. C'est une heure d'entretien avec une seule personne. Donc, il y a le temps d'aller au fond des choses. Et c'est, c'est une émission, l'émission scientifique que je ne rate jamais, La conversation scientifique par Étienne Klein sur France Culture, en podcast, évidemment, aussi disponible. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci à tous les trois.
Merci.
Et à très vite. Nous, on se retrouve. Pardon, à la technique, c'était. Oui. Ah non, il faut jamais. En fait, je devrais commencer, je devrais te citer, tu vois, dès le départ. On dit ça aussi dans les émissions, à la réalisation, tout ça. Je ferai ça la prochaine fois.
Ah, ça dépend, hein. Il y a deux écoles. Hein. Ils le font des fois à la fin. Ils le font souvent à la fin, quand même.
Souvent à la fin, mais pourquoi pas au début, comme ça,
au milieu. Au milieu, ça peut être.
Juste après le jeu de société. Allez, à la Réal.
On va réfléchir à tout ça d'ici la semaine prochaine. En tout cas, merci Jules. Et nous on se retrouve la semaine prochaine sur Binge Audio, sur Libération et sur les internets. Ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.